Vous écoutez
RMC.
RMC.
Jonathan McCarthy, c'est l'auditeur de l'acheteur devenu chroniqueur. Repéré par le chef scout de la cellule de recrutement des RMC, Mac du Standard, ce bel esthète a plusieurs passions dans la vie. Le foot, les sports de combat et le whisky.
Dans la défense centrale aussi, il y a des questions. Bon, il y a Christensen qui est arrivé, mais qu'est-ce que tu fais du Capouillol?
Il y a un truc, je suis désolé.
Oui.
C'est pas Oscar Wilde, mais c'est Oscar Wilde.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamal.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Avec ce soir, il est donc là, Oscar Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Ah, il est. Autoproclamé Oscar Walid d'ailleurs.
Ah non, mais ça a fait effet hier.
Ah bon?
Ah,
ça a eu des retours aujourd'hui ou pas?
Des retours très positifs. Et tout de suite dans le générique, donc je suis très très content.
Je rappelle que tu as rendu hommage hier à Oscar Wilde.
Hein. Et bien sûr, un grand philosophe.
En empruntant une citation d'Oscar Wilde.
Ouais.
Notamment, Walid Acherchour est avec nous, Jonathan McCarthy aussi. Salut Jonathan.
Salut Nico, salut tout le monde.
Ça va Jonathan?
Ouais.
On l'a digéré?
Non.
Ouais. On a digéré les 30 secondes KO?
30 secondes.
2 minutes KO? Ouais.
Ah, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit.
Ah oui, on l'a pas vu le combattant d'épée.
Parce qu'on n'a pas eu de communication officielle pour l'instant.
Si.
À part sur les réseaux sociaux, mais on aimerait la voir dans Génération After quand même.
Bah, il y a la revanche en octobre.
Jonathan a été battu par quoi? Un champion de France, c'est ça?
Ouais. Mais bon, t'es à deux doigts de le soumettre. Mais c'est pas... Là, on verra en octobre.
La revanche en octobre, et ce sera sur.
J'ai déjà recommencé à m'entraîner, donc on verra en octobre.
Sofiane Zoui est avec nous. Salut Sofiane.
Salut Nico. Salut à toutes et à tous.
Ça a une revanche. Sofiane,
Winamax
FC.
J'ai un grand respect pour ceux qui vannent des mecs qui vont dans une cage pour taper. Vraiment, déjà le concept.
Il
est
se
fou.
Tape pas, il fait des roulades.
Ouais, enfin, cas, mais, ouais, mais il fait ce qui. Moi, je rentrerai jamais dans ce truc-là.
T'as du courage.
Grand respect, Joe. Essentiellement parce que j'ai peur.
Gilbert Brébois est avec nous également ce soir. Bien sûr, Gilbert, bonsoir.
Salut les gars.
Salut Gilbert.
Ça va?
Nous, on avait débriefé ce week-end avec Jonathan son combat.
C'est vrai.
Voilà, on avait fait un mini podcast dans l'after. Mini podcast et combat.
T'en as pensé quoi toi avec ton oeil?
J'ai rien compris. Ah ouais, il paraît qu'il a fait une clé de talon.
Ah, c'est vrai,
une
oui.
Clé de talon.
Clé de talon, ouais. Il s'est réveillé.
Dans un instant, Gilbert, tu vas nous dérouler le programme de l'after à partir de 22h et nous aurons un invité exceptionnel. Julien Stéphan, ex-entraîneur de Rennes et du Racing Club de Strasbourg, sera avec nous pendant ces 2 heures sur RMC dans Génération After. Situation actuelle, il est sans club, il veut reprendre un banc de Ligue 1 ou à l'étranger et il arrive dans quelques instants pour nous en parler. Également son regard sur le foot actuel, sur la nouvelle génération d'entraîneurs français, sur pourquoi on n'y arrive pas, toujours pas en Coupe d'Europe. Lui qui avait signé l'épopée rennaise. Qui avait atteint les 8e de finale de Ligue Europa.
Une épopée.
C'est vrai qu'en France, c'est une épopée.
Par Arsenal, il avait sorti le Real Betis, comme l'a rappelé très bien hier Walid. Il sera avec nous.
Qui avait battu Arsenal, ouais, sur la
Ligue. Sur le match aller, ouais. Exactement. Ce sera à partir, il arrive dans quelques minutes, Julien Stéphan. Gilbert, qu'y a-t-il au programme de l'after à partir de 22h?
C'est quoi le menu?
Beaucoup de mercato. Mercato Paris, Mercato Nice, Mercato Lyon, Mercato International. Là, ça commence vraiment à bouger, là. C'est parti. Et donc, on va en débattre ensemble, bien sûr. Puis à 23h, on va continuer de parler de l'Arabie Saoudite parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et surtout ce soir, on ne va pas parler là de Benzema, du sujet est-ce qu'il faut qu'ils prennent l'oseille, pas l'oseille. Là, c'est surtout en fait qu'est-ce qu'ils veulent faire, quoi. Est-ce que c'est le nouveau Qatar? Est-ce que c'est une stratégie différente? Est-ce que c'est juste uniquement pour être face au Qatar? Enfin bref, on va décrypter tout ça, donc un peu de géopolitique du sport tout à l'heure dans l'after. Et puis. Retour également sur la Juve qui veut sortir de la Super League. Histoire de chantage vraisemblablement entre l'UEFA et la Super League. On va vous raconter ça également. Et puis on a quand même une finale de Coupe d'Europe ce soir, je vous signale.
Eh oui,
West Ham Fiorentina.
Franchement, exactement. On s'en sort bien sur l'affiche. Hein.
Ouais, on aurait pu avoir AZ Alkmaar Bâle.
Ouais. Après, on va pas vendre du rêve, hein. C'est pas non plus incroyable.
On aurait aussi pu avoir Nice-West Ham.
Oui, enfin, ouais.
On analysera cette finale également avec Johan Crochet, Julien Laurence, tout à l'heure à partir de 22h.
Et au passage, j'ai bien aimé le débat d'hier entre Thibaut et Daniel sur l'Arabie Saoudite là, avec le choix de Benzema.
C'est normal, c'est moi qui choisis les débats.
Bon, j'étais d'accord avec Daniel sur l'hypocrisie autour de l'Arabie Saoudite. J'ai trouvé très bon, Daniel.
Ah bon?
Sur le fait que en gros c'était uniquement parce qu'il allait en Arabie Saoudite que ça posait problème au-delà de l'argent.
Mais c'est évidemment que ça doit poser un problème.
Mais moi j'ai trouvé l'avis de Daniel plutôt intéressant.
Mais Daniel, je pense que Daniel a oublié qu'il avait une carte de presse et qu'il était journaliste au moment d'émettre cet avis. Et de voir comment les journalistes étaient traités par le régime.
Non, mais
et
ça, puis, on accueille Daniel.
Non, mais moi, j'ai raconté ça. Et juste quand on parle de conflits, parce que vous preniez l'exemple de ce basketteur qui joue en Russie, c'est ça, Gilbert?
Thomas Hortel.
N'oublions pas ce que Mohamed Ben Salman et son régime font au Yémen. Je pense qu'on en parle beaucoup des Ouïghours, etc., mais qu'on a tendance à oublier deux, trois autres petites choses.
Vous verrez écouter le podcast à ce sujet, hein, dans l'excellent after d'hier soir, avec Thibaut, Gilbert et Daniel. Il est en ligne, évidemment.
Très très bon. Réécoutez le podcast.
Vraiment excellent.
La suite ce soir.
Ce soir, la suite. À tout à l'heure, Gilbert, à partir de 22h avec Daniel et Thibaut, toujours. On attend Julien Stéphane qui va arriver. On a plein de questions à lui poser, bien sûr. On peut lui parler aussi de Kamavinga. Il a vu gamin, Kamavinga. Savoir ce qu'il pense de son nouveau poste de latéral gauche au Real Madrid.
Il y a plein de choses à évoquer.
On a énormément de questions à lui poser. D'abord, Marseille pour démarrer. Tout à l'heure, on évoquera également l'OL en deuxième heure avec toi, Walid. Tu as du mal à comprendre pourquoi Lyon maintient Laurent Blanc sur son banc. Ce sera avec vous au 32-16, supporters de l'OL. D'abord, Marseille. Avis de Jonathan. À Marseille, attention. Travailler avec Pablo Longoria peut poser des problèmes. Jingle, Jonathan.
T'as une ouverture en profondeur d'Awar, et puis Dubois n'y va pas, Depay n'y va pas, il se regarde les yeux en chien de faïence.
Elle était belle, celle-là.
Oui, oui, oui.
Je pense qu'il faudrait sortir un bouquin un jour, éditer quelque chose, tu vois.
Ouais.
Avec un chapitre pour chacun d'entre nous.
Mais c'est pas déjà le roman photo de la revue de l'After ?
Ah, il y a de ça, t'as raison.
Ça parle d'Awar dans l'extrait, il a annoncé son départ de Lyon. Hein.
Ouais, ouais, c'est à la Roma.
Ouais. Bien. Voilà.
Alors, Jonathan, nous t'écoutons. Pourquoi Pablo Longoria pose un problème à Marseille ?
Écoute, je pense qu'on a eu cesse de louer les qualités de Pablo Longoria dans cette émission, et moi le premier, de dire à quel point le travail de reconstruction et de restructuration qu'il avait entrepris à l'OM était phénoménal. Je rappelle qu'il y a à peu près, c'était quoi, 2 ans et demi, il y avait un cyprès qui brûlait à la commanderie, les supporters qui essayaient d'envahir le centre d'entraînement. On se demandait où le club allait, il y avait une personne incompétente à la tête du club. Et puis en 2 ans et demi, Longoria a fait l'impossible, à savoir redonner de la passion au public marseillais, reconstruire une équipe ambitieuse qui se qualifie 2 fois de suite pour le podium. Et surtout, je pense que c'est une chose que l'on ne souligne pas assez, remettre les finances du club dans le vert. Et ça, c'était un très gros exploit quand on voit la manière dont cela avait été géré auparavant.
Merci à CVC un peu.
Exactement, évidemment, Sofiane, mais aussi toute une gestion sur la gestion des salaires, sur la gestion des transferts qui a été bien rondement menée. Moi, le seul petit bémol que je vais mettre à ça, c'est que il faut voir que tous les hommes qui sont choisis par Pablo Longoria pour incarner le projet sportif finissent tous par s'en aller avec une date d'expiration qui arrive somme toute assez rapidement. On a vu Jorge Sampaoli qui quitte le club sans avoir d'offre pour rebondir tout de suite ailleurs, ce qui est quand même très très rare. On a vu Igor Tudor faire la même chose. On voit aussi, et ça c'est passé un petit peu sous les radars, mais ça me semble être extrêmement important, ça te concerne Sofiane d'ailleurs, le départ de Mathieu Louis-Jean, qui avait été présenté par Pablo Longoria comme une des pierres angulaires du projet marseillais. Longoria disait qu'il voulait absolument s'appuyer sur son travail à la cellule de recrutement pour construire l'OM compétitif de demain. Et tu te rends compte que moins quasiment un an après son arrivée, Mathieu Louis-Jean va s'engager avec l'Olympique Lyonnais. Donc au final, il y a cette vague de départ qui pour moi souligne quelque chose qui pourrait devenir problématique. On l'a souligné, Longoria c'est quelqu'un qui est brillant, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui réfléchit à 1000 à l'heure. Notre brillant correspondant à Marseille, Flo Germain, nous a raconté 1000 et 1 petites anecdotes qui montrent à quel point Longoria est obsédé par le foot. Il pense foot, il vit foot, il mange foot, il dort foot, enfin le peu qu'il dort.
Il dort peu, ouais.
Et je pense que ça peut être problématique et difficile à suivre. Vous savez, je pense qu'on a tous connu à l'école ces gamins très très intelligents, très très en avance, trop en avance par rapport au reste de leurs camarades, et qui avaient du mal, d'une part à s'entendre avec le reste de la classe, et puis d'autre part à se faire accepter par le groupe. Et j'espère que c'est pas ce qui est en train de se passer avec Longoria. On sait que c'est un esprit qui est brillant en termes de foot, en termes de réflexion, et même en termes de business, mais attention à ne pas être de souffrir de cette espèce de péché d'intransigeance qui fait que t'arrives pas à travailler sur la durée avec des collaborateurs proches et importants comme peut l'être l'entraîneur de l'équipe première de l'OM. Donc ce que je dis, c'est que c'est pas impossible de travailler avec Longoria, mais il y a une récurrence qui est en train de s'installer, qui à mon sens doit être un premier signal d'alarme, et je vais faire très attention, je pense qu'on sera tous très attentifs à la manière dont les relations se noueront et évolueront avec le prochain coach, parce que pour moi, pour l'instant, il y a rien d'alarmant, mais il y a quand même des signaux qui sont au moins
donc. Donc tu pars du principe que Pablo Longoria est responsable de l'instabilité, en tout cas sur le banc de touche, et même de l'effectif marseillais. Appelez-nous au 32-16 pour en débattre avec Jonathan, Sofiane et Walid. Sofiane.
C'est un sujet super intéressant, Longoria, parce que c'est un sujet qui, déjà, son interview, enfin sa conférence de presse d'une heure et demie est vraiment, vraiment à voir si vous aimez le football, parce qu'il a un discours qui me plaît beaucoup. Après, je dis que c'est intéressant parce que il nous force à revoir peut-être nos positions sur le football. Moi, j'ai encore du mal à souscrire à certaines de ses idées, même si je conçois évidemment que je suis très nettement en dessous de lui dans la compréhension footballistique. Mais c'est vrai que je vois pas mal de limites dans sa façon de faire. C'est très difficile aussi d'avoir ce débat parce qu'en fait il sort de deux podiums et qui sont des performances quoi qu'on en dise, et donc c'est dur de le remettre en question sur sa façon de faire. Maintenant notre taf aussi c'est de se projeter et de voir les limites de ce modèle là, des limites qu'on a pu apercevoir durant la saison mais au final qui peuvent être palliées par le résultat final et le podium qui valide quelque part son approche. Mais je pense qu'il y a quand même des limites. Déjà, je trouve qu'il est très habile dans sa communication, mais je pense qu'il nous ment un peu sur notamment l'atmosphère et l'environnement à l'Olympique de Marseille. Moi, je vais pas du tout remettre ça en cause. Je pense que Marseille c'est une ville particulière, une ville de foot particulière en France, et ça évidemment que par rapport aux autres clubs, c'est très différent. Maintenant, faut pas abuser sur cet argumentaire pour valider un tourbillon d'effectifs, un tourbillon de coach comme il le fait depuis qu'il est présent. C'est-à-dire que pour moi, évidemment que Marseille est un lieu particulier, mais cette saison moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mansuétude de la part des supporters. On va me rappeler l'épisode des sifflets Tudor, mais c'est bon, on peut passer à autre chose. C'était un malentendu, c'est arrivé une seule
un
fois
match, un match amical, bon,
on va pas,
saison contre le Milan.
On va pas ça justifier va. L'atmosphère impossible à tenir à l'OM à cause de quelques sifflets en début de saison. Moi j'ai envie de mettre en avant ce qui s'est passé en Ligue des Champions, qui était quand même un échec dans la poule, quoi qu'on en dise. J'ai pas vu beaucoup moi de gens remettre en cause Longoria ou Tudor après cet épisode là le match face à Annecy. Je pense qu'il y a quelques années, il y a des générations de supporters de l'OM qui auraient attendu les joueurs, je valide pas du tout ça, mais à la commanderie, mais j'ai trouvé qu'il y avait de la déception. Exactement. Après ce match-là, mais plutôt une mansuétude à ce niveau. Donc attention à cet argumentaire. Évidemment que c'est un lieu particulier, mais moi j'ai plus envie de dire à Pablo Longoria, pour moi l'instabilité de tes effectifs, enfin de tes coachs, c'est l'instabilité de tes effectifs et tes choix de profil de joueurs qui imposent une intensité constante, parce que tu n'as pas des joueurs que tu recrutes qui sont des joueurs supérieurs. C'est-à-dire quand l'intensité baisse, on voit les limites techniques des joueurs. Et ça, c'est fatigant pour un coach à chaque fois d'y aller, à chaque fois de les
de
motiver,
demander 140%
de demander oui. Voilà. Donc c'était une conférence de presse très intéressante, vraiment à voir, parce que c'est un mec très intelligent et qui me plaît beaucoup dans son analyse foot. Mais je pense qu'il ment un peu sur cette idée d'environnement bouillant, parce que c'est lui aussi qui nourrit ça.
C'est un peu caricatural aussi dans l'approche. Je ne sais pas comment les Marseillais le prennent, justement, ce besoin de rock'n'roll qu'il prétend avant-hier en conférence de presse, de jeu pimenté absolument, qui colle à l'image de l'OM et de la ville de Marseille. Dans un instant, Walid va réagir également à l'avis de Jonathan. Et on aura Julien Stéphan qui nous rejoint dans quelques secondes dans Génération After. Tiens, on l'interrogera sur son regard sur la saison de l'Olympique de Marseille, sur le travail d'Igor Tudor et Pablo Longoria.
J'ai attendu mon tour aujourd'hui.
Donc, quelle discipline parce que tu es arrivé quasi, presque en retard.
Oui, c'est ça, voilà, très bon élève. Sanctions. Bon élève.
A tout de suite, Walid. A tout de suite, Jonathan et Sofiane. Génération After arrive dans quelques secondes.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération Acteur sur RMC, merci d'être avec nous 20h17 avec Sofiane Zouaoui, Walid Acharchour et Jonathan Macardy. Et nous accueillons notre invité ce soir, invité exceptionnel sur RMC, Julien Stéphan. Bonsoir.
Bonsoir.
Heureux de vous accueillir.
Bonjour,
merci
Julien.
Pour l'invitation.
Bonjour Julien.
Bonsoir à tout le monde.
Il fallait qu'on ait Julien Stéphan pour qu'il y ait un peu d'élégance cette émission quand même.
Ah, bien évidemment. Oui, oui. Chemise.
Bronzage parfait, chemise.
Allez.
Parfaitement repassé.
Les 8 premières minutes étaient horribles. Il est venu rehausser le niveau.
Pendant que nous, on vient, on ne sait même pas laver le visage.
Ouais, c'est ça. Julien, on a le petit. Et puis 3-7.
On est heureux de vous accueillir dans Génération After. Vous allez nous accompagner pendant ces deux heures ensemble sur RMC. Je rappelle, hein, pour ceux qui ont quitté la France pendant 10 ans, ex-entraîneur du Stade Rennais, vainqueur de la Coupe de France avec Rennes, 3e de Ligue 1 aussi, 6e de Ligue 1 avec Strasbourg dans la foulée, ce qui était pu arriver à Strasbourg pendant 41 ans. On va revenir sur votre carrière et votre présent, votre avenir aussi. Vous êtes sans club aujourd'hui. On a 1000 questions à vous poser. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters rennais et strasbourgeois qui auront des questions à vous poser au 32-16. Ils peuvent nous appeler d'ici quelques minutes. Mais on parlait de Marseille, Julien, actuellement. Tiens, avant qu'on réagisse encore à l'avis de Jonathan, votre regard sur la saison de l'OM, notamment celle d'Igor Tudor, évidemment aussi, qui n'est plus à l'OM désormais. Est-ce que vous avez aimé le style Tudor ?
Oui, j'ai aimé l'intensité, j'ai aimé l'énergie. J'ai aimé aussi les idées qui ont été développées, notamment l'apport des défenseurs centraux. J'ai aimé ce jeu dans le camp adverse. Après, il y avait un parti pris qui a été mis en place avec quelque chose de très très osé, notamment sur le plan défensif. Et on a pu voir sur la deuxième partie de saison que bon nombre d'équipes avaient réussi à s'adapter. Donc, à
très osé, trop osé parfois peut-être.
Très osé. Je crois que quand on est entraîneur, il faut être logique avec ce qu'on propose et ce qu'on veut mettre en place. Et il a été logique du début jusqu'à la fin, sans surprise. Ensuite, les adversaires se sont adaptés. Ils ont profité de beaucoup de profondeur. Ils ont mis en place aussi des circuits dans la sortie du ballon pour notamment contrecarrer le pressing marseillais qui avait fait très très mal sur la première partie de saison. Voilà. Je pense que au niveau du championnat, ils ont fait un championnat très très correct, voire bon à mon sens. Ils sont tombés sur un Racing Club de Lens exceptionnel et sur un PSG qui a fait ce qu'il fallait pour remporter le titre. Peut-être que la déception, elle vient certainement de l'élimination en Coupe de France contre Annecy.
Le jeu n'était pas devenu un peu prévisible. Je pense que beaucoup de supporters marseillais se disaient c'est génial ce qu'on vit en début de saison. Mais bon, quand les adversaires vont comprendre que si tu bloques les côtés, c'est terminé, ça risque de sentir un peu le roussi. C'est pas un peu dangereux quand on est entraîneur de sentir que le jeu devient de plus en plus stéréotypé. Certes, ça reste cohérent, mais c'est beaucoup plus visible pour les adversaires.
Oui, il y a forcément une part d'adaptation de la part de l'adversaire tout au long d'une saison. Ça, c'est une évidence. Ensuite, il y avait un style qui était tellement affirmé. Je pense que de changer de tout au tout, ça aurait été très négatif sur la saison. Mais en tant qu'entraîneur, il y a toujours des parts d'adaptation obligatoires dans une saison. Je pense qu'il y a eu des adaptations sur certains matchs. Ensuite, il n'y a pas eu de bouleversement, mais certaines petites adaptations, oui.
L'utilisation de Guendouzi différente un peu,
par
notamment.
Par exemple.
Qui a été réarrêté d'être utilisé.
L'utilisation de Jonathan Clauss aussi de temps en temps dans le couloir gauche.
Exact.
Peut modifier certaines choses avec un faux pied dans un couloir. Notamment, l'intégration de Vitinha sur la deuxième partie de saison avec une association de temps en temps avec Alexis Sanchez. Qu'on n'a pas énormément vu, mais qui a du coup modifié aussi certaines choses dans l'animation offensive. Il y a eu certaines modifications. Il n'y a pas eu un effet de bouleversement.
On parlait de Pablo Longoria avant votre arrivée dans Génération After, Julien Stéphan. On s'interrogeait sur sa part de responsabilité dans l'instabilité sur le banc marseillais et dans l'effectif. Il a encore redit en conférence de presse il y a 48 heures. Il faut s'attendre à Marseille, encore une fois, à 40% de renouvellement de l'effectif avec un nouveau coach, 40 à 50 même. Ça devient une constante à Marseille, constance dans l'instabilité. Olé, tu voulais réagir aussi. Est-ce que tu penses qu'il est responsable, Pablo Longoria? Est-ce qu'il peut faire autrement, surtout?
C'est ça, en fait. C'est que moi, je suis un peu piégé dans l'analyse sur Pablo Longoria parce que déjà, je suis charmé par sa communication. Encore une fois, sa conférence de presse a été d'une très très grande qualité et j'adhère totalement à ce qu'il nous explique sur le coach qu'il veut avoir l'an prochain, sur le style de coach, ce qu'il a envie pour l'Olympique de Marseille.
Et style rock'n'roll,
au-delà de la punchline du rock'n'roll, je trouve que ce qu'il a détaillé juste après est quand même très très pertinent.
La défense en zone.
Bien sûr, il y avait
à manger quand même.
C'est Sofiane qui le disait. On n'a pas énormément de personnes en France qui parlent aussi bien de football quand même. Et surtout les présidents. On parle d'un président quand même. Les directeurs sportifs peuvent parler très très bien de foot, mais il y a très très peu de présidents en France qui sont capables de tenir le discours que Longoria a eu. Maintenant, quand je dis que je suis piégé, c'est que je comprends totalement et même je partage parfois l'avis de Sofiane et de Jonathan sur le fait que un entraîneur dans le contexte marseillais et avec ce que Longoria demande en termes d'exigence et puis même le fait d'essorer, que ce soit dans la communication ou même dans le changement permanent d'effectifs, et ben ce soit un problème sur la durée. Moi je l'avais dit après Sampaoli l'année dernière et je le dis la même chose après Igor Tudor, surtout en plus qu'il va avoir un barrage très très rapidement, donc pour le coach qui va arriver ça va être très très dur de mettre en place et d'être compétitif très rapidement avec un
tour préliminaire début août.
Exactement, un effectif qui va encore évoluer. Mais pour l'instant, qu'est-ce que tu veux dire, Nico? Il a fait deux fois podium. L'OM, c'était pas arrivé depuis un gros nombre d'années. Même sur le recrutement, moi, il y a des recrues qui me dérangent. Mais quand on regarde, il y a 3-4 ans, où l'OM était avec quel type de joueur l'Olympique de Marseille jouait.
Si tu compares avec avant.
On est dans l'exil. Voilà, moi, j'ai la composition d'équipe sous les yeux de Marseille face à City. avec Villas-Boas, mais on pleure du sang.
Bah attention, on peut faire
donne quelques noms.
On avait Cuisance, on avait Alvaro, avait Amavi, on avait Luis Enrique, Sakai, Pape Gueye. Voilà. Non mais c'est juste
avec
pour
avec Longoria, tu peux dire Bakambu, Loan Perez, tu peux
je
dire.
Je pense qu'on a quand même évolué dans la qualité des recrues et dans la qualité des joueurs de l'Olympique de Marseille par rapport à ce qu'il y avait avant Longoria. Donc c'est pour ça que je dis que je suis piégé. Maintenant, moi j'entends totalement que pour moi le reset perpétuel dans le football, je suis pas sûr que le manque de stabilité fasse que tu puisses pérenniser dans le temps. Maintenant, pour l'instant, ça fonctionne.
Je vais accueillir Samir d'abord, Jonathan. Ouais. Samir est avec nous.
Et ça reste un mec pertinent. Ça reste un mec très pertinent.
Salut Samir.
Salut Samir.
À vous, bonjour tout le
monde.
Bienvenue
Samir. Mais on est ravis de t'accueillir dans Génération After.
Salut l'ami. Ça fait longtemps que j'écoute l'After, donc passer dans Génération After, c'est un honneur pour moi. Je rebondis en fait par rapport à ce qu'avait dit Sofiane, sur lequel j'étais d'accord sur un peu sa perception de Longoria, surtout de dire que Marseille était un club qui prenait beaucoup au niveau d'énergie, donc il fallait renouveler continuellement l'effectif. Sur ça, franchement, je ne suis pas du tout d'accord. J'avais compris au début d'année le changement d'entraîneur, même si j'étais contre de changer chaque année un entraîneur, de ne pas travailler dans la continuité. À Marseille, chaque année, on change un entraîneur et c'est vraiment très problématique. On était passé avec Tudor, où on a fait vraiment 6 premiers mois. La première partie de saison a été très intéressante. Même s'il y a eu l'échec de la Ligue des Champions, moi, ce qui m'avait fait plus comparé aux années précédentes, c'est que pour la première fois, on avait mis un but dans le jeu. Il faut se rendre compte que Marseille, sur la précédente compétition Ligue des Champions, c'était 2 buts de Payet et
Penalty. Tu pars
de loin, vraiment très très loin. Donc moi, j'étais à Tottenham, j'étais au Vélodrome à la toute fin, et sur le dernier match, j'étais descendu à Marseille. On sentait que franchement, sur le terrain, il y avait Sanchez et Mbemba qui pouvaient marquer. On a enchaîné avec une seconde partie de saison avec un match par semaine. Là, on nous dit qu'il y a eu un problème d'énergie. Franchement, j'ai du mal.
Intéressant.
Quand je vois qu'on a perdu 3-0 à domicile contre le PSG, ce PSG-là, c'est grave quand même. Alors là, on peut s'en prendre à Tudor. J'avoue, il y avait un style de jeu qui n'était pas adapté, surtout mettre Bailly sur Mbappé, c'est très compliqué. Mais qu'on enchaîne après une défaite à la maison contre Annecy, je n'en veux pas. Et c'est Annecy quand même. En fait, on retombe dans nos travers. Et Sofiane, je me souviens qu'il avait fait sur une émission sur YouTube, qu'il avait fait un troll, entre guillemets, de Marseille, ça allait trop bien. Normalement, ça perd en Coupe de France. On était revenu dans nos travers, tout simplement. Donc là, en fait, on repart sur ça. On met aussi des joueurs. Je pense qu'on en demande 3 à certains joueurs. Par exemple, Klaus, le milieu de terrain. Je pense qu'il y a de la qualité, mais je pense que pour des gros matchs, il faut des joueurs qui sont plus talentueux ou il faut au moins un milieu de terrain pour les accompagner.
Il n'y a pas assez de joueurs supérieurs.
C'est ça, en fait, c'est tout à fait ça. Et en final, on se retrouve avec des joueurs qui ont peur de gagner parce que le titre cette année, on aurait pu aller le chercher. Au moins, en fait, repartir avec la Coupe de France. Et pour moi, cette année, c'est un échec complet, en fait. Parce que on devait finir deuxième.
C'est extrêmement sévère, quand même. Tu fais podium de Ligue 1.
On est podium de Ligue 1, mais regardez combien de clubs français arrivent à passer les barrages. Ok, enfin, alors on va dire que cette saison sera réussie si on va en poule de Ligue des Champions, mais si on n'y va pas.
Ouais, mais après, tu...
bon, c'est l'avenir, c'est de la science-fiction, on sait pas
l'avenir,
encore ce qui va advenir.
Voilà, mais on part sur quand même cette année avec notre effectif. Bon, Lens a très bien joué, Paris restera Paris, mais il y a eu de gros manquements et donc Longoria a sa responsabilité, Tudor a un peu de sa responsabilité, mais aussi les joueurs ont cette responsabilité-là. On ne peut pas mettre tout sur Tudor. Oui. C'est faux. Longoria a ses responsabilités dans ses choix, dans les choix des joueurs, même si certains joueurs n'ont pas assez brillé qu'on attendait d'eux. Mais voilà, je pense que Longoria a cette responsabilité et les joueurs. Et même, alors c'est très bien son interview d'une heure et demie qui nous donne. Il nous parle football, etc. Mais chaque année, les réponses sont toujours les mêmes.
Mais les résultats sont constants quand même. Tu fais 2 fois podium en 2 saisons.
C'est ça, c'est très peu de mecs comme ça vraiment profitent. Hein, vraiment.
Après, il y a le volet humain dont on n'a pas parlé. Mm. C'est que humainement, par rapport à ses coachs aussi, peut-être que sur la durée, il faut savoir qu'en termes de communication, quand Tudor était dans le dur, j'ai pas beaucoup entendu Longoria cette saison, moi.
Après, il est soutenu.
Je l'ai pas beaucoup entendu, moi.
Mais je pense que la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si ce rôle un peu hybride qu'il occupe. Il est président, mais on sait que c'est un directeur sportif dans l'âme. C'est pas difficile à tenir en tant qu'entraîneur d'avoir un supérieur qui veut autant s'investir sur la partie de terrain. Je pense que.
Je demandais à Julien Stéphane, c'est intéressant de savoir, Julien, ce que vous en pensez de ça, d'avoir un président à ce point.
C'est pas oppressant.
Un peu interventionniste. Je dis pas qu'il est dans la composition des équipes à Marseille, mais qu'il connaît aussi bien le football.
Julien, on a eu un d'ailleurs.
J'ai vécu ça, mes débuts à Rennes avec le président Olivier Létang.
Eh oui.
C'est un challenge pour un entraîneur. C'est un vrai challenge. Au quotidien, c'est un challenge. Alors, c'est pas tous les jours évident, ça c'est clair. C'est pas tous les jours facile. Mais en même temps, ça oblige aussi à être challengé. Et ça, c'est vachement intéressant. Très sincèrement, c'est intéressant. Après, il y a autre chose sur le plan humain qui peut se passer. Mais sur le plan professionnel, c'est très challengeant. Voilà. Donc, moi, je l'ai vécu pour une première expérience. Alors, pas pendant un an, pendant un petit peu plus de temps que ça. Ça peut user sur la durée, en effet. Mais ce que je remarque quand même, vous faites un débat sur le président de Marseille. Et ce que je remarque quand même, c'est qu'en début de saison, lorsqu'il y a eu des difficultés d'entrée de jeu, en termes relationnels, semblerait-il, avec une bonne partie du groupe, il s'est tout de suite positionné pour bien défendre sûr, très, très fortement son entraîneur.
Il a envoyé Gerson au Brésil, il a pris des décisions
fortes.
Et tout le monde ne l'aurait peut-être pas fait.
Ah oui, c'est dans un premier temps,
et
oui,
ça,
c'est
il
vrai.
Il faut reconnaître une prise de position très, très forte dès le mois de juillet, alors que le championnat n'avait pas encore
commencé. Après, Julien, heureusement, parce que c'est son choix aussi. Si, sincèrement, certes, au bout d'un mois, après avoir choisi Tudor, s'il ne le soutenait
mais
pas.
Le recadrage était clair, n'était pas si en cours.
Oui,
il y avait une forme d'autorité quand
il l'a encore répété dans sa conférence de presse. L'entraîneur est très important et qu'aucun joueur.
Président loyal. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le qualifier également. Merci Samir d'avoir fait le 32-16. Très bonne soirée à toi.
Merci Samir. Tout bien, que Walid trouve des places pour Alcaraz du Covid.
Ouais, je suis sur le coup.
Bonne soirée.
On va trouver ça.
Merci à toi Samir, à très vite sur RMC. Julien Stéphane est notre invité ce soir dans Génération After. Dans un instant, on va s'intéresser à votre cas, Julien. Rennes, Strasbourg, l'avenir également. Votre regard sur la Ligue 1, les entraîneurs qui vous inspirent. J'ai entendu dans une interview récemment, vous disiez qu'un bon entraîneur doit voler des idées aux autres. C'est une preuve d'humilité pour avancer, progresser. C'est très important. Vous allez nous dire si vous avez volé des idées à certains coachs de Ligue 1 cette saison. Restez avec nous, c'est Génération After avec Jonathan Macardy, Walid Acharchour et Sofen Zoï sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Sur RMC avec Walid Acharchour, Sofiane Zouaoui de Winamax FC et Jonathan Macardy. Et notre invité exceptionnel ce soir, nous avons accueilli presque à la gare de l'Est, hein, il est arrivé de Strasbourg. Julien Stéphane, salut. Rebonsoir Julien. Vous pouvez nous appeler au 32-16, hein, poser vos questions à Julien. Pas uniquement supporters rennais et strasbourgeois. Tous les amoureux de foot qui nous écoutent chaque soir, n'hésitez pas à poser vos questions, notamment sur le quotidien d'un entraîneur, de la vie d'un entraîneur. On en a à vous poser aussi. Alors Julien, petit rappel quand même de vos états de service d'entraîneur. Hein. Je rappelle formateur après une carrière modeste de joueur, on peut le dire, carrière modeste.
Ah oui, oui,
tout à fait. Hein.
Très modeste.
Très modeste.
Très modeste.
Formateur à Châteauroux, Lorient, puis à Rennes, votre ville de naissance de 2012 à 2018. Vous succédez à Sabri Lamouchi en décembre 2018. Début tonitruant, enchaînement de victoires. Vous amenez Rennes pour la première fois en huitième de finale de Ligue Europa, éliminé par Arsenal après les avoir battus au match aller, après avoir sorti le Real Betis également. La fameuse épopée, on en a un peu rigolé ici. Considère que c'est une épopée, hein?
Je pour Rennes.
Non, en Coupe d'Europe?
Ouais.
Un beau parcours. Oh,
un beau parcours. Ouais, un beau parcours. Enfin, une épopée.
C'est une demi-finale.
C'était un beau parcours.
Puis victoire historique en Coupe de France contre le PSG, on s'en souvient. Premier titre rennais depuis 48 ans. Troisième de Ligue 1 en 2020 avec Rennes. Première qualification en phase de poule de Ligue des Champions pour Rennes de son histoire. Puis surprise, vous démissionnez. En mars 2021, après une série de mauvais résultats. Rien de catastrophique pourtant. Non. Alors que votre direction voulait vous conserver également. Vous en parlez déjà avec Florent Maurice à l'époque. Vous en avez parlé pendant plusieurs heures, voire une nuit même. Il voulait vous convaincre de rester. Alors, on n'a jamais trop compris cette décision. Vous l'avez déjà évoqué sur différents plateaux. Je vous ai notamment entendu dire que vous culpabilisiez de mettre Rennes dans cette situation-là à l'époque, cette mauvaise série de résultats. Comme si l'attachement affectif était tellement fort avec Rennes que vous vous sentiez pas forcément à la hauteur à ce moment-là. C'est ça?
Ouais.
C'est très personnel, c'est presque intime,
ouais,
en fait.
Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai peut-être eu un défaut de perception et de jugement à ce moment-là. Je me suis précipité, je me suis déjà exprimé là-dessus. Voilà, après, ça a été fait. C'est comme ça.
Il y a des regrets quand même.
Non, il y a de la fierté du parcours là-bas. Et puis, il y a une décision qui a été prise à ce moment-là d'un très jeune entraîneur qui vivait une première période difficile. Dans un club qui lui tenait à cœur, avec un propriétaire qui lui tenait aussi beaucoup à cœur et qui lui tient toujours beaucoup à cœur, parce que j'ai beaucoup de respect pour la personne. Voilà, avec des gens aussi dans le club avec qui j'ai gardé beaucoup d'attaches, mais c'est comme ça. Et je suis content de voir qu'il continue à avancer et à performer.
Mais qu'est-ce qui vous pèse à ce moment-là précis? Parce que oui, je vous ai entendu plein de fois en parler d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous pèse le plus à ce moment précis? Est-ce que c'est les commentaires de certains supporters? Est-ce que c'est ce que vous entendez dans la presse? Est-ce que ce que vous ressentez dans le vestiaire avec les joueurs? Parce que forcément, il y a un tout.
Du club.
Il y a un tout. Voilà, exactement. Il y a un tout qui peut vous amener à cette décision qui finit aujourd'hui en regret. Mais forcément, au moment où vous la prenez, c'est que vous êtes convaincu. Il y a un truc qui vous amène à la prendre. C'est quoi le?
Ouais, il y a un ensemble de choses. On est sur le grill depuis deux ans et demi où on joue très régulièrement tous les trois jours. On est dans une période aussi Covid où il n'y a plus personne dans le stade. Moi, ce qui m'a affecté, très honnêtement, à ce moment-là, je l'ai mal vécu cette période-là. Il n'y avait plus de passion, il y avait plus de bruit, c'était fade en fait, c'était fade. Et je pense que c'est une multitude de facteurs qui m'ont amené à prendre cette décision-là. C'est vrai que la situation était loin d'être alarmante. Je crois qu'on était 8e ou 9e, on avait un match de retard, on n'était pas loin encore des places européennes.
5 points.
Ouais,
4 points.
4 points avec un match en retard.
4 points, ouais.
Ouais, 4 points avec un match en retard. Donc, autant dire quasiment rien. Bon, voilà. Après, je l'ai prise, cette décision. Il faut l'assumer. Je l'assumerai jusqu'à la fin de ma carrière et il faut avancer.
Rebond à Strasbourg 3 mois plus tard, hein. Elle a aussi début exceptionnel, 6e de Ligue 1 à l'issue de la saison, meilleur classement depuis 40 ans, fin d'histoire 6 mois plus tard, mauvais résultat, mise à pied, et donc aujourd'hui et depuis janvier dernier, sans club, Julien Stéphane, rapidement sur Strasbourg avec le recul, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait des choses que vous n'aurez pas dû faire, des regrets dans la gestion de l'équipe, dans le relationnel également?
Quand ça se passe moins bien, on a toujours sa part de responsabilité. Il ne faut pas la nier. Quand ça se passe très bien, on a aussi une part de responsabilité. Voilà, donc.
Mais qu'est-ce que vous ne referiez pas, ce que vous avez fait à Strasbourg sur la fin, notamment, par exemple?
Non, mais ça a duré en réalité 4 mois, parce qu'il y a eu une coupure au mois de novembre. Il y a eu un mois et demi de coupure, et puis début janvier, ça s'est arrêté. J'ai certainement pris de moins bonnes décisions. On a aussi. C'est pas une excuse, mais pas mal de faits contraires avec pas mal de blessures. On a eu, sincèrement, on n'a pas eu beaucoup de réussite sur cette première partie de saison. C'est pas la seule excuse, hein, loin de là.
Puis la période mercato aussi, pardon, Julien. La période mercato,
ouais,
embêtante.
Aussi. Très embêtante. Ouais, très embêtante. Alors, je suis encore. C'est difficile pour moi de m'exprimer encore sur Strasbourg, ouais. D'autant plus que ma situation avec le club n'est toujours pas réglée.
D'accord. Et
voilà, donc c'est pas évident. Mais il y a une part de responsabilité qu'il faut prendre, qui doit être partagée. Ce que j'ai envie de retenir surtout de ce passage-là, c'est la première année. Sincèrement, ça a été exceptionnel.
Ouais.
Exceptionnel. Parce qu'on a modifié complètement le visage de l'équipe dans ce qu'on a voulu proposer en termes de jeu, dans ce qu'on a voulu proposer au quotidien aussi aux joueurs, et ils ont adhéré complètement à ce qu'on a proposé. Quand je dis on, c'est tout le staff et c'est l'ensemble des personnes qui étaient autour des joueurs. Donc ça, c'était fantastique. J'en garderai vraiment un souvenir très fort. Après, je pense qu'il y avait un virage à prendre et on ne l'a pas pris à ce moment-là comme il aurait fallu le prendre.
Et le virage, c'est plus d'investissement peut-être pour grandir?
Ouais, c'est certaines décisions qui nous auraient peut-être permis de faire fructifier cette
capitaliser cette année fantastique. Sur cette première
saison. Oui, complètement. Voilà.
Est-ce que, attention, c'est une question, c'est pas pour vous chercher des poux, mais
vous pensez pas que cette première
saison à Strasbourg qui était exceptionnelle, vous finissez sixième, il y a une attaque qui fonctionne très bien, Strasbourg, à chaque fois qu'on regarde un match de Strasbourg, c'est le spectacle.
Dialogue,
vous terminez second, vous êtes deuxième au trophée UNFP du meilleur entraîneur, l'équipe vous consacre meilleur entraîneur de la saison basé sur les notes qu'ils mettent en fin de match, il y a une hype Julien Stéphane extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment peut-être un petit relâchement, un peu de complaisance?
Alors, très honnêtement, non. Enfin, non.
Ce qui serait humain.
Tu veux dire quoi? Non. Relâchement ou un peu de
relâchement?
De surconfiance aussi, peut-être?
Non.
D'arrogance. Ce qui serait humain?
Ou même arrogance ou surconfiance, peut-être?
Ouais. Ah, non. Enfin, non. Enfin, pas de manière consciente, si jamais elle a eu lieu, mais j'ai pas le sentiment. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas construit comme ça et je fonctionne pas comme ça au quotidien. Plutôt quelqu'un qui se remet en question, justement, en permanence et qui se pose beaucoup de questions pour améliorer les choses. Donc non, j'ai pas eu ce sentiment.
Justement, c'est pas difficile de faire une saison aussi exceptionnelle avec un club comme Strasbourg sur votre première saison et de repartir sur une deuxième en sachant très bien que ça va être
très complexe de faire au moins aussi bien.
Si, c'est bien évidemment que c'est beaucoup plus.
Comment on se motive ça pour
on a deux il y a deux possibilités. Soit on va voir ses dirigeants et on leur dit merci beaucoup, on a passé une super saison, on arrête. Et à ce moment-là, on pense à soi, on pense à sa carrière.
C'est dur à faire quand même dans ce contexte-là. Hein.
Exactement. Mais c'est une possibilité. Certains le font. Voilà, c'est pas l'option que j'ai prise. Soit on continue en sachant que ça va être plus difficile.
Avec la Coupe d'Europe.
Mais en espérant aussi quand même qu'on puisse faire certaines choses pour faire fructifier la bonne saison. Voilà. Bon. Ça s'est pas passé comme je l'aurais souhaité sur la deuxième saison.
C'est fou la vie quand même, parce que Julien, vous êtes en train de nous expliquer que il y a un regret sur le départ à Rennes. Et que finalement, à Strasbourg, vous n'êtes pas parti au bon moment. Dans les décisions aussi des coachs, on en parle avec Igor Tudor, on en parle avec beaucoup de coachs en Europe, le fait de savoir s'arrêter ou de ne pas partir au bon moment, au-delà de la fonction de savoir entraîner, c'est aussi important dans une carrière, finalement.
Ouais. Oui, parce que ça peut, après, peut-être un petit peu ternir l'image.
Vous avez le sentiment que votre image est un peu ternie ou pas?
Ternie, je sais pas si elle est ternie. En tout cas, je suis pas un entraîneur parfait, ça c'est sûr, mais je suis fier des 4 ans que j'ai fait en Ligue 1. Oui. Sur 4 ans, je crois qu'il y en a 3 qui ont été passés entre la 3e et la 6e place. Donc ça, je suis fier de vrai.
On est pas à Strasbourg en plus, faut bien le préciser.
Ouais. Avec Rennes et Strasbourg et le Rennes il y a 4 ans, c'est pas le Rennes.
Exactement. En parlant de Strasbourg, Nico, on est pas revenu là-dessus, mais très rapidement. Moi, j'étais surpris que vous alliez à Strasbourg après Rennes. On parlait de l'image de Julien Stéphan. Il avait quand même une très très belle image et une très belle cote, que ce soit à Rennes et même quand ça s'est terminé. Moi, je pensais, on en parlait un peu en off avec Sofiane, que Lyon allait s'intéresser à Julien Stéphan, à l'époque où même on parlait de Galtier et que Peter Bosz est arrivé, notamment. Et le voir à Strasbourg, bon, encore une fois, sans faire
injure
à Strasbourg, je veux pas être viré par Gilbert Bribois, mais l'idée, c'est de dire que, à ce moment-là, je me dis,
où est la progression?
Ouais, étonnant, passes de Rennes. Et donc, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé entre les deux clubs et pourquoi vous allez à Strasbourg à ce moment-là. Faute de mieux ou parce que le discours
Non, c'est pas faute de mieux, c'est parce qu'un entraîneur aussi, c'est des challenges à relever. Et il faut pas avoir peur de relever des challenges difficiles. Et c'était un challenge difficile, je savais que je prenais un risque, un très gros risque, parce que j'arrivais dans un club qui s'était maintenu à la dernière journée la saison précédente. Mais j'avais aussi l'intime conviction qu'on pouvait faire quelque chose de très sympa avec un projet qui pouvait se développer dans la durée. Bon, il se trouve que la chose très sympa est arrivée très 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 vite, mais c'est ma plus grande fierté d'avoir fait cette saison-là avec Strasbourg. Je suis encore plus fier de ça que d'avoir gagné la coupe avec Rennes, d'avoir emmené Rennes en Ligue des Champions, parce que Rennes était à ce moment-là pas un club calibré pour la Ligue des Champions, mais un club qui pouvait être calibré en tout cas pour lutter pour les qualifications européennes. Strasbourg était pas du tout calibré pour ça à la base. Et j'en suis d'autant plus fier qu'on a aussi modifié certaines choses dans le visage de l'équipe et que ça a fonctionné. Donc
précisément quoi?
Le fait d'aller presser l'adversaire, le fait de jouer beaucoup plus haut.
C'était l'équipe qui récupérait un maximum d'occasions, prendre des risques, c'est ça.
Ouais, la première année, c'est l'équipe qui récupérait le plus haut le ballon. Ouais.
Et puis quand on voit
deuxième meilleure attaque pendant plusieurs mois derrière le PSG.
Quand on voit le Strasbourg de Thierry Loret et le Strasbourg de Julien Stéphan. Mais
justement, on va parler de tout ça avec Julien Stéphan.
Faut se mouiller la nuque.
L'ancienne et la nouvelle génération. Qu'est-ce que ça veut dire réellement nouvelle génération? On parle de votre avenir aussi. Je vous pose la question franchement. Est-ce que vous avez des contacts aujourd'hui en Ligue 1 ou à l'étranger aussi? Quelles seraient vos préférences? Vous pouvez nous appeler au 32-16 également. Il y a des monnaies qui nous écrivent, on veut Julien Stéphan à Monaco. C'est vrai que ça a failli se faire à une époque avec Thierry Henry.
Mais est-ce qu'il voudrait y aller? C'est la question.
Franchement, évidemment, Julien Stéphan.
C'est pour passer des messages.
Donc bien sûr, c'est le jeu et c'est aussi pour ça qu'on l'accueille.
Je suis venu parce que j'ai été invité.
Voilà. Non, Julien, on les connaît, les joueurs et entraîneurs qui viennent nous voir aussi. On est heureux de vous accueillir. À tout de suite dans Génération After sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Jonathan McCarty, avec Walid Acharchour et Sofiane Zouaoui, Génération After sur RMC. Comme tous les soirs de 20h à 22h, Gilbert Brébois, Daniel Riolo, Thibault Leplat prenons le relais à partir de 22h. Tiens, on parlera de Lyon tout à l'heure également avec Walid, qui ne comprend pas pourquoi Laurent Blanc est maintenu sur le banc de l'Olympique Lyonnais. On aura aussi le regard de Julien Stéphan, notre invité de soir, sur le travail de
Walid. C'est normal, la calculatrice.
Walid fait cet avis parce qu'il y a Julien, donc ils se sont parlé avant. Julien a dit ça va de la porte
de Laurent Blanc. Non, pas du tout.
Les résultats de Laurent sont très, 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 très bons sur les 7-8 derniers mois.
Mais Walid va au-delà des résultats.
Bien évidemment.
Évidemment.
Oui, même sur les résultats, on va pouvoir discuter.
Comme beaucoup de directeurs sportifs.
Tout à fait. Julien Stéphan est donc notre invité ce soir. Vous êtes sans club après 4 saisons en Ligue 1. J'ai une question plus personnelle. Comment vous vivez ces 6 mois qui viennent de s'écouler sans travailler? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque moins aussi dans l'environnement foot aujourd'hui?
Non, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais principalement l'adrénaline de la compétition, et puis le rapport aux joueurs et le rapport au vestiaire. Voilà, qui est irremplaçable. Bon, ce qu'on peut apprécier un petit peu plus, je dirais les premières semaines, mais ça dure pas très longtemps parce qu'après on a un manque qui arrive rapidement, c'est la quiétude du soir. Quand on s'endort et de se dire que le lendemain...
On dort mieux,
mais en même temps, c'est pas bien dormir qu'on a envie. C'est de retrouver des joueurs et de retrouver l'adrénaline de la compétition.
Qu'est-ce qui vous manque moins? Les nuits plus courtes, notamment.
Oui. Mais non, sincèrement, il y a beaucoup de choses qui me manquent.
Les médias?
Non, les médias, ça me manque pas. Non, ça fait partie du métier et c'est pour moi pas un problème d'échanger avec les médias. Non, parfois, quand il y a des longues mises au vert, ça peut être un petit peu plus embêtant. Mais non, il y a pas grand chose. Sincèrement, il y a pas grand chose qui manque. Qui ne me manque pas. Il y a beaucoup de choses qui me manquent et principalement le fait de se retrouver au milieu des joueurs et de pouvoir être en compétition le week-end.
Alors, où en êtes-vous? Avez-vous des contacts? Quel est votre souhait? Je sais que vous apprenez l'anglais. Vous renforcez votre anglais actuellement aussi. Vous êtes allé voir des matchs en Allemagne. Vous êtes toujours à Strasbourg avec votre famille. Oui. Quel est votre souhait aujourd'hui? Si on vous appelle dans 3 jours pour replonger en Ligue 1, est-ce que vous voulez le faire?
Oui. Oui, bien sûr, je suis prêt. Je l'ai déjà dit. Je crois que quand on est limogé en cours de saison, il y a des premières semaines qui sont un petit peu difficiles sur le plan personnel parce qu'il faut digérer ça. Et une fois que c'est digéré, on est dans la reprojection, dans l'analyse aussi et dans le bilan et puis dans la reprojection. Donc ça fait maintenant 2-3 mois que je suis prêt à repartir. J'attends qu'un bon projet puisse se présenter.
C'est quoi mon projet, Julien Stéphane?
Ben, un bon projet, c'est un projet...
Un investisseur américain entre Rhône et Saône.
C'est jouer l'Europe ou c'est jouer la relégation?
Non, c'est un projet si possible ambitieux, qui permette, en tout cas, qui permette d'essayer d'avoir des résultats, qui puissent profiter pour
jouer
un premier tiers de classement.
Premier tiers de classement, ok.
Voilà, ensuite, c'est clair. Ensuite, il peut y avoir d'autres projets aussi intéressants, à la fois sur le plan humain et sur le plan de l'émotion. Donc voilà, je suis pas fermé. Très honnêtement, je suis pas fermé. Ligue 2.
Ah, si t'as dit première partie de tableau.
Non mais on peut.
J'imagine que c'est
non, Ligue 2 remonter avec les.
Il faudrait un club très à part pour qu'aujourd'hui voilà ça puisse m'intéresser. Pas il y en a
ça
pas.
Arrêtez profil Saint-Etienne par exemple.
Un club à part, voilà, un club à part. Mais je veux pas non plus ici faire acte de candidature.
Non, bien sûr, je comprends.
Il y a des entraîneurs en poste, il y a des entraîneurs.
Sauf qu'il y a des clubs où il y a plus d'entraîneurs. Je pense à Monaco, je pense à Nice notamment. Monaco pourrait correspondre à ce que vous recherchiez, par exemple, un premier tiers de Ligue 1.
Complètement.
Ce serait super, Monaco.
Oui, c'est
magnifique.
C'est un club qui m'intéresse.
Justement, là, puisqu'on parle de coachs qui n'ont pas fini la saison, j'ai vu une stat, puisque sur les 20 coachs, il y en a 15 qui ont quitté leur club cette saison. J'ai rajouté les deux derniers, là, avec notamment Philippe Clément. Quand, puisque c'est votre boulot, c'est quoi votre analyse par rapport à votre métier quand vous lisez ce genre de stats? Est-ce que pour vous c'est un passage qui peut arriver sur une saison ou est-ce que vous dites mince, je fais quand même un métier de plus en plus précaire?
La précarité, elle fait partie de ce métier-là et il faut l'accepter. Je pense que ces chiffres-là sont renforcés par l'année à 4 descentes. Ouais. Ça paraissait quand même une évidence qu'en début de saison il y allait avoir beaucoup de mouvements en cours de saison dû à ces 4 descentes, qui est de la précarité, oui, mais quand on s'engage dans ce métier-là, on pense pas d'abord à la précarité, on pense à la chance qu'on a d'exercer en faisant notre passion, on pense à la chance qu'on a d'être à côté de joueurs de haut niveau, on pense à la chance qu'on a d'émotions qu'on peut partager d'un point de vue collectif. Voilà, on pense d'abord à ces chances-là.
Mais vous pensez que vous êtes moins protégé? Je parle de manière générale, vous les coachs.
Qu'à l'étranger?
Non, de manière générale, mais restons en France, puisqu'on parlait de la France au début.
Par rapport à avant?
Oui, par rapport à avant. Est-ce que vous pensez que votre génération, elle est moins protégée?
Plus exposée peut-être, moins protégée, je sais pas, mais plus exposée, oui, mais par la manière dont se développe le monde, tout simplement. Donc,
Mais vous le ressentez ça au quotidien?
Là, vous parlez des réseaux sociaux, tout ça, tout le monde a un avis sur tout.
C'est beaucoup plus difficile d'entraîner aujourd'hui?
C'est difficile pour moi de comparer parce que j'étais pas dans le monde d'avant, ou en tout cas j'ai pas
traîné il y a 10 ans. Vous évoquez ça peut-être avec
votre père,
On
n'évoque pas forcément ça ensemble. Je pense qu'il faudrait, pour avoir un avis plus pertinent, un témoignage d'entraîneurs qui étaient là il y a 10-15 ans.
Eh bien, Roland Courbis arrive. On a accueilli Roland Courbis en génération.
Allô, mon poulet.
Moi, j'ai une question pour Julien. À notre place, ou à la place des observateurs, ou même des directeurs sportifs qui vont peut-être vous solliciter sur les prochaines semaines, j'aime bien poser cette question. Vous penseriez quoi, vous, de Julien Stéphane à notre place ou à la place de directeur sportif par rapport à vos qualités, à votre marge de progression, à ce que vous avez montré, à l'image aussi que vous
là,
pouvez.
C'est l'entretien d'embauche. Là,
non mais que vous pouvez avoir. Non mais parce que moi j'ai une idée bien précise de votre boulot, mais j'aimerais bien avoir peut-être vous votre auto-analyse quoi là-dessus sur ce que vous avez fait un bon petit bout de chemin déjà en Ligue 1.
4 ans. C'est difficile hein, de parler de soi, mais si je devais résumer de manière très courte, je dirais à bien commencer et doit encore développer son potentiel.
Pas mal. D'accord. Pas mal. Ouais, parce que moi, pour vous donner mon avis, encore une fois, humblement, on va être honnête, moi, je me suis beaucoup enflammé à votre égard, que ce soit à Rennes et même sur les débuts à Strasbourg, peut-être même parfois un peu trop, où moi j'ai souvent dit dans mes émissions que vous étiez la nouvelle génération des coachs français, que vous aviez apporté à un moment donné quelque chose de nouveau, même si je trouve que vos équipes, que ce soit Rennes ou Strasbourg, ça a souvent très très bien commencé. Vous avez souvent impulsé quelque chose. Vous avez été souvent dans l'adaptation, moi je trouve, des adversaires, que ce soit en Ligue 1 ou même en Europe, pour faire des gros résultats, ou même en Coupe de France avec le Paris Saint-Germain.
Même avec ses propres effectifs. Même avec ses propres effectifs. Parce qu'il joue pas dans le même dispositif à Rennes pendant toute sa période à Rennes. Quand Nzonzi arrive, c'est différent.
Exactement.
Et à Strasbourg, il joue à 3 derrière.
Mais le petit bémol, c'est quand il a fallu impulser quelque chose avec le ballon, essayer d'être encore plus protagoniste quand les équipes vous connaissaient un peu plus dans un deuxième temps. Je trouvais que il y avait, entre guillemets, dans vos équipes, hein, pas forcément vous, mais quelques lacunes pour passer cette étape 2. Et moi, souvent, quand on disait Julien Stéphan pour un grand club, etc., je me disais, est-ce que face à des équipes qui vont avoir 80% du temps la possession, est-ce que ça va être aujourd'hui quelqu'un qui peut le faire? Et voilà, moi,
réponse de Julien Stéphan dans un instant. Faut qu'on fasse une pause, Julien Stéphan. Je sais que vous avez envie de répondre, évidemment.
Non, mais c'est un avis. J'aimerais discuter avec lui.
On va en parler. On va parler de la nouvelle génération d'entraîneurs également. Ça va votre regard là-dessus. Est-ce que c'est pas un peu vite dit, nouvelle génération? Est-ce qu'il y a une vraie rupture entre les anciens et les nouveaux également? Restez avec nous, Génération After, le tennis à Roland-Garros avec Julien Taxis. Un quart de finale entre Rune et Rude. Pas évident à dire. Bonsoir, Julien.
Salut les amis, premier set largement dominé par Casper Ruud, 25 minutes de jeu et 5-1 pour le Norvégien qui est au service et nouvelle énième faute directe, j'ai envie de dire, d'un Holger Rune qui a vraiment du mal pour l'instant à rentrer dans son match. C'est plutôt Casper Ruud hein, qui domine et qui n'est pas loin de s'offrir le premier set. On rappelle que le vainqueur de ce duel retrouvera Alexander Zverev en demi-finale.
Ruud l'avait battu l'année dernière à Roland.
Remake exactement, et remake surtout du quart de finale de l'an dernier ici, ouais, même à Roland-Garros.
Il avait posé beaucoup de problèmes déjà à Rome, donc c'est pas finalement une grande surprise.
Alors, dans un instant, pour la suite de Génération After, avec notre invité Julien Stéphan, Jonathan Macardy, Walid Acharchour et Sofiane Zouaoui sur RMC. À tout de suite.
Génération After.
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là, j'ai pas aimé, manque d'impuissance.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On va les avoir, des opportunités, on en aura. Continuez à les faire douter et on garde la tête haute, quoi qu'il arrive. Comme des grands garçons, comme des bonhommes.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Jonathan Macardy, avec Sofiane Zouaoui de Winamax FC, Walid Acharchour et notre invité ce soir, Julien Stéphan, est avec nous jusqu'à 22h. Dans un instant, vous allez réagir à l'attaque frontale de Walid Acharchour.
Non, pas du tout. On est dans une discussion intéressante.
Je plaisante, Walid. D'abord, les directs. Commençons par l'événement foot de la soirée. Bien sûr, la finale de Ligue Europa Conférence entre la Fiorentina et West Ham. Bonsoir, Aurélien Tiersain.
Bonsoir, Nico. Bonsoir à tous. Et c'est parti fort. 0-0 après 3 minutes de jeu, mais il y avait déjà deux frappes après 40 secondes. Là, c'est Nico Gonzalez qui va se faire rattraper par Declan Rice, le capitaine de West Ham, le joueur de la Fio qui va rester écroulé dans la surface de réparation. Il y a du rythme en tous les cas à l'Eden Arena. Ça se passe en République tchèque. 0-0. C'est Vladimir Smisser, l'ancien Lensois, l'ancien Bordelais, qui est venu apporter le trophée avant le début de match. Je vais pas faire toutes les équipes titulaires, mais rapidement, Sofiane Amrabat, le Marocain titulaire du côté de la Fiorentina. La surprise, c'est Arthur Cabral, le buteur brésilien sur le banc. Luka Jovic, l'ancien du Real, est en pointe. Et du côté de West Ham, il y a beaucoup d'anciens de Ligue 1. Areola dans les cages, Aguerd et Zuma en défense centrale. Emerson, lyonnais, quelques mois, est titulaire latéral gauche. Lucas Paqueta, l'ancien lyonnais, lui aussi, titulaire en tant que meneur de jeu, sans oublier l'Algérien Saïd Benrahma, il est gauche. 0-0, 4 minutes.
Il connaît là ou pas côté Fiorentina?
Il est sur le banc. Jonathan, il connaît. C'est Christian Kouamé, c'est la petite surprise l'Ivoirien, avec Jovic et Nico Gonzalez devant.
Aurélien.
Le style de Vincenzo Italiano, c'est pas possible. Hein. On est en finale de Coupe d'Europe, la veste sans manche, le polo. Non, soyons sérieux.
On préfère son jeu.
Hein, il est né en Allemagne, il est italien, il a l'air un peu perdu. Ouais.
Naïef Aguerd, titulaire ce soir, hein, que Julien Stéphan a eu à Rennes, bien sûr. Très bon joueur
et très bonne personnalité en plus.
En plus de ça,
un grand professionnel quelqu'un de très humble. C'est un véritable bonheur pour un entraîneur d'avoir ce type de joueur dans un vestiaire.
Alors, vous pouvez réagir maintenant à ce que disait Walid tout à l'heure, justement, qui s'interrogeait sur votre capacité à faire évoluer votre équipe sur la durée, notamment.
Non, déjà, je remercie Walid pour sa question, parce qu'elle est très intéressante et très pertinente. Moi, pour revenir un petit peu sur mon parcours, au début de ma prise de fonction, j'avais une obsession en tête, c'était gagner la légitimité et la crédibilité dans ce métier-là, dans ce milieu-là, ce qui n'est pas facile. Tu peux être un bon formateur, mais être un bon entraîneur de haut niveau, c'est autre chose. Tu peux avoir une bonne image, mais ce qui te crédibilise et ce qui te légitime après, ce sont les résultats. Donc ça a été mon obsession dans un premier temps. C'est vrai qu'on peut, on peut, et je pense qu'on doit s'adapter à son effectif quand on est entraîneur. On peut gagner des compétitions, je pense notamment à une Coupe de France en s'adaptant sur quelques matchs. Et j'ai pas de honte à dire que, par exemple, sur la finale de la Coupe de France contre Paris, on s'est beaucoup adapté à eux, dans le sens où il y avait une qualité individuelle en face qui était plus forte que la nôtre. Donc je pense que c'est une des qualités d'un entraîneur. Ensuite, je pense pas qu'on fasse un championnat quasiment complet, en tout cas 30 journées, et finir troisième en étant que dans l'adaptation. Mais quand je disais tout à l'heure des bons débuts, mais peut encore faire mieux, c'est peut-être aussi à ce niveau-là. Et la période que je vis en ce moment de 5 mois d'inactivité me permet aussi de réfléchir à bon nombre de choses, de regarder, d'observer. J'ai vu énormément de matchs. Ouais. J'ai analysé quelques entraîneurs en profondeur et quelques équipes en profondeur parce que j'avais le temps de le faire. Ouais.
Lesquels par exemple?
J'ai beaucoup analysé le Brighton de De Zerbi cette année. J'ai vu tous leurs matchs.
C'est un bon choix.
Tous leurs matchs.
Bon voilà, choix.
Tous leurs matchs. Ouais. J'ai beaucoup regardé.
C'est validé. Qu'est-ce qui vous plaît chez De Zerbi dans ce qu'il fait là?
On
a la réponse, mais.
Non, mais ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que quand on regarde son équipe ou ses équipes, il y a un style qui est très affirmé. J'aime la prise de risque et j'aime le côté ce que ça génère après chez les joueurs ce type de football là en termes de plaisir, en termes d'intensité aussi. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Est-ce qu'on gagne des championnats avec ça? Est-ce qu'on gagne des trophées avec ça? Ça c'est une autre question. Par contre, je trouve qu'en termes d'émotion, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup regardé, beaucoup analysé le Lille de Paulo Fonseca aussi.
Très bon choix aussi.
J'ai beaucoup aimé.
Voilà. On se retrouve sur l'adaptation du latéral qui l'asymétrie, je veux dire, avec Diakité notamment. Et Brighton utilise aussi le latéral. Ils ont utilisé Caicedo à droite en latéral, puis en milieu de terrain.
Ils ont trois jeux de position, Brighton. Ouais. Trois jeux de position différents, qui est adapté en fonction de l'organisation adverse et du positionnement des adversaires. Donc c'est hyper intéressant à regarder. Voilà, j'ai beaucoup regardé l'Arsenal d'Arteta aussi. Cette année, j'ai vu tous leurs matchs.
Bon choix aussi. Là aussi, voilà. Il y a de la symétrie.
Exactement. Et ce qu'il en ressort, c'est ce côté asymétrique. Voilà. Et cette création de supériorité numérique dans certains secteurs de jeu, et bien évidemment aussi tous les matchs de City avec Guardiola, parce que là on touche summum.
Quand vous dites à juste titre qu'il faut s'adapter à ses effectifs, est-ce que vous aussi à l'avenir vous n'allez pas être un peu plus exigeant envers vos directeurs sportifs ou pour apporter un style aussi de joueurs pour avoir un peu plus ce matériel
des joueurs adaptés à votre style, quoi.
Exactement, non, par rapport à cette solution des blocs bas ou des équipes qui vont un peu plus vous attendre quand le style Stéphane dans un premier temps aura été entre guillemets lu, parce que vous le disiez tout à l'heure avec Igor Tudor, cette faculté à pouvoir s'adapter constamment. Donc oui. Est-ce que c'est aussi une réflexion à avoir sur les prochaines années, parce que on parle de Zerbi. De Zerbi arrive à Brighton, il a pas les meilleurs joueurs du monde. Il a pas mais en termes de style, de profil, on parle plus finalement de qualité aujourd'hui. On parle de profil, de joueurs polyvalents, de joueurs cérébraux qui ont cette capacité à pouvoir s'adapter, à comprendre ce que le coach demande aussi.
Ouais, des joueurs qui peuvent jouer différentes positions. Je pense que l'entraînement peut les amener à développer ça aussi. Après, c'est vrai qu'il a pas les meilleurs joueurs, mais il y en a des très très bons.
Oui, oui, bien sûr, bien évidemment, oui.
Il y en a qui sont pas très connus, mais des joueurs comme Mitoma,
Mackenzie,
Enciso, est plus connu. Enciso, c'est exceptionnel. Mitoma, Mitoma, c'est incroyable.
Ah oui, oui.
Caicedo, c'est un joueur, exceptionnel.
Il y a
vraiment.
Mais à la base, ils sont pas très très connus,
ces joueurs. Mackenzie, c'est un sacré joueur. Et même quand il était en Argentine, je l'avais vu jouer à Boca Juniors. Il a fait une vingtaine de matchs là-bas. Il sortait déjà du lot par rapport aux autres. Je voudrais revenir sur vous. Il y a un point que vous soulevier qui est intéressant. Vous demandiez si avec le style de Zerbi on gagne des championnats, on gagne des trophées. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est de marquer la mémoire collective des supporters des clubs que vous allez entraîner en leur fournissant des émotions, du beau jeu, un style peut-être un petit peu fou mais qui va amener des matchs dingues dont les supporters vont se rappeler, ou de remplir l'armoire à trophées? Il y avait un choix entre les deux.
S'il y avait un choix à faire entre les deux, très sincèrement,
gagner les trophées.
Bah oui.
Eh oui.
Gagner les trophées.
En plus, c'est lié les deux.
Oui, moi aussi, je pense qu'il
faut pas séparer. Regarde Marcelo Bielsa.
Je pense qu'il faut pas séparer les deux.
Beaucoup d'émotions, en effet, par des matchs qui peuvent marquer les gens, mais on génère encore plus d'émotions par des trophées et par des victoires. Ça, j'en suis absolument convaincu, absolument persuadé. Certains très grands entraîneurs arrivent à lier les deux, mais ce sont des très grands entraîneurs dans des très grands clubs avec d'énormes moyens aussi qui sont mis à disposition pour acheter les joueurs qui veulent. Et je pense qu'il y a 99% peut-être des entraîneurs qui doivent s'adapter à un effectif, s'adapter à une organisation de club différente. Il y a très peu d'entraîneurs qui ont la latitude d'avoir et le portefeuille et le pouvoir de décision sur les joueurs.
Julien Stéphan est avec nous dans Génération After. Je résume donc, vous ne travaillez plus dans un club depuis janvier dernier. Il y a 4 clubs aujourd'hui en Ligue 1 qui n'ont pas d'entraîneur sur leur banc.
Oui.
Nantes. Non, oui, non, intéressé, non.
Nantes, c'est un très bon club historique.
En tant que Rennais.
Mais j'ai aussi une histoire avec Rennes.
Voilà, je le savais. Nice, pourquoi pas? Beau projet.
C'est un très beau projet.
Il y a des moyens.
C'est un très beau projet.
Ouais, Côte d'Azur. Si on vous appelle demain, si Florent Guizofi vous appelle demain, vous le rencontrez avec intérêt.
S'il souhaite me rencontrer, ça sera avec grand plaisir.
Monaco.
Mais je n'ai pas eu de contact.
Monaco, vous l'avez dit, magnifique.
Oui.
Au-delà du climat et l'environnement.
C'est autre chose, c'est un environnement particulier au stade, mais c'est un club avec des moyens, avec un effectif de qualité, avec des ambitions. Donc, bien évidemment que c'est un club intéressant.
Le Paris Saint-Germain n'a pas d'entraîneur. Là, on nous dit, sur les studios, Lolo Gauthier nous dit, Julien Stéphan au PSG, s'il vous plaît.
Non, après, il faut aussi avoir de l'ambition, c'est une chose. Il faut aussi avoir l'humilité de connaître.
Intéressant de dire, on vous le conseille pas.
Sa conseillère BNP lui conseille. Moi,
ça se refuse pas le PSG, Julien Stéphan.
Mais aujourd'hui, très honnêtement, je me pose même pas la question parce que je suis quelqu'un de très terre à terre et très lucide. Et je préfère m'orienter vers des choses qui peuvent se réaliser.
Et ça amène une question qui me semble. Quand vous êtes nommé à Rennes, il y avait cette quête de légitimité parce que vous aviez passé plus d'une dizaine d'années en tant que formateur. Vous arrivez dans un vestiaire de Ligue 1, on connaît les égos qu'il peut avoir dans un vestiaire. Il faut asseoir son autorité, etc. Est-ce que vous voyez dans un vestiaire avec des stars où il faut appeler Neymar pour lui dire d'arrêter de jouer au poker jusqu'à 4 heures du matin?
On va pas parler d'une chose qui n'arrivera jamais.
Non, mais je te parle pas de Neymar.
Non, mais c'est pas forcément Neymar. C'est pas le seul Neymar qui joue au poker aussi en Ligue 1.
Vous posez, c'est est-ce que ça n'a pas été peut-être la chose la plus difficile à mettre en place quand vous avez pris vous avez pris ces vestiaires de Ligue 1, de dire moi j'ai peut-être été formateur pendant 10-12 ans, mais si je te dis que tu manges comme un sagouin et que tu te couches trop tard, va falloir arrêter. Ça n'a pas été quelque chose de dur pour vous?
Gérer Ben Arfa par exemple, ça a été simple?
Ça a été très honnêtement, ça a été une grande chance pour moi de commencer ma carrière en gérant, mais pas que à Thème. Hein. Il y avait des joueurs de gros caractère. Il y avait Bagnon, Clément Grenier. Et j'ai eu des joueurs avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de qualité aussi. C'est une chance parce qu'on apprend sur le tas et on est mis en situation et n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Sinon, on explose. Voilà. Donc, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été évident. Il a fallu prendre parfois des positions très fortes et très marquées. Mais je pense aussi que c'est dans ces moments-là où on avance, où on apprend le plus. C'est aussi dans ces moments-là où on s'affirme.
J'ai l'impression que vous avez su le faire très tôt, ça. Asseoir votre autorité.
Je pense que c'était absolument nécessaire de le faire. Je me suis pas forcé, mais oui, il a fallu le faire.
Pause dans un instant. On prolonge avec Julien Stéphan. On va parler de Lyon. On écoutera l'avis tranché de Bédé Gerchaud.
Et j'aimerais poser la question aussi sur la progression du joueur.
On a encore 45 minutes ensemble avec Julien Stéphan. On va parler d'autres clubs aussi. On va parler de Lyon et de Laurent Blanc. Parce que tu voulais en parler également, Walid, ce soir dans Génération After.
Après, on peut en parler demain sinon.
Non, ce soir. T'as du mal à comprendre pourquoi Lyon maintient, en tout cas, John Textor maintient Laurent Blanc sur le banc de l'OL. Reste avec nous, Génération After, avec Julien Stéphan, Walid Acharchour, Sofiane Zouaoui et Jonathan Macardy sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Sofiane Zouaoui, Walid Acharchour et Jonathan Macardy, RMC Génération After, 21h17. Et notre invité, Julien Stéphan, qui regarde le tennis comme nous, Roland Garros. Détour par la porte d'Auteuil, où nous attend Julien Taxis. Le quart de finale entre Rune et Rude, Julien.
Oui, il est rude pour Rune. Voilà, c'est fait. Cœur Rune au service, mené 6-1, 3-1. Alors, ça va un tout petit peu mieux depuis quelques jeux pour Holger Rune, qui tente des choses, de créer, de varier parfois des services volés. Mais son début de match a été tellement catastrophique. Déjà 25 fautes directes, 7 doubles fautes pour le Danois qui essaye d'exister, mais qui a du mal véritablement à faire dégoupiller le métronome qui est Casper Ruud. 6-1, 3-1 pour le Norvégien.
Attention, Julien, parce que la Rune peut tourner.
Hein. Oui, pas ta meilleure. Pas mal, mais pas incroyable non plus, mon cher Willy.
D'accord, ok. Bon.
À tout à l'heure, mon cher Julien. La finale de Ligue Europa Conférence entre la Fiorentina et West Ham, Aurélien Tiercin.
Toujours 0-0 après 17 minutes et 40 secondes de jeu. Avantage West Ham, quand même plus puissant les Anglais. La frappe de Declan Rice, notamment, c'est la plus grosse occasion à l'entrée de la surface de réparation. Ça vient lécher le poteau droit de Pietro Terracciano. D'ailleurs, West Ham qui n'a pas de sponsor sur son maillot, hein, c'est Betway, un site de paris en ligne. Ça, c'est interdit en République tchèque. C'est pour ça qu'on a un sponsor, un maillot tout blanc avec une mauvaise flamme orange. D'ailleurs, il est pas terrible ce maillot, mais c'est pas le problème. 18 minutes de jeu, 0-0 entre la Fiorentina et West Ham.
Petit message de Malo sur Direct Studio. Julien, en tant que René de 20 ans, supporter des Rouges et Noirs depuis toujours, mon idole n'est pas Dembélé, Jimmy Briand, Kamavinga ou Mvila, mais toi, Julien. C'est vrai ce que je dis. Hein. Merci pour les émotions extraordinaires vécues. Je suis certain que ton chemin et celui du Stade René se recroisera dans le futur. Ah, pourquoi pas un jour?
Je sais pas, en tout cas, c'est pas d'actualité.
Pas d'actualité, en tout cas, voilà, c'est extrêmement clair. Lyon, on en parle avec Oued Achercho.
Tout de suite. Parce que j'avais une petite question juste.
Non, après, on aura le temps. D'accord, on va revenir après. Okay, on a des questions encore à poser.
D'accord.
D'abord, on parle de Lyon avec toi. Ton avis, ce soir, Walid, John Textor, je le rappelle, a confirmé encore une fois la présence de Laurent Blanc sur le banc de l'OL la saison prochaine. T'as du mal à comprendre ce choix. Jingle, Oued Achercho.
Moi, quand je m'habille, quand je sortais, etc., je détestais mettre de l'argent dans des jeans. Je préférais mettre un beau t-shirt, une belle chemise, de l'argent dans des belles chaussures.
Ce qui est incroyable, c'est la fin des belles chaussures.
C'est vrai qu'il y a un ton bizarre, ouais.
Nous t'écoutons, mon cher.
Oui, non, je voulais parler, bien évidemment, de ce qui se passe à Lyon, parce qu'on n'en parle pas, beaucoup, de ce qui se passe pas à Lyon, finalement, parce qu'on attendait un directeur sportif. Finalement, on nous explique que Bruno Chéroux va encore travailler chez la holding Textor, où on n'a pas trop bien compris, qui avait le recruteur marseillais,
Mathieu
Louis-Jean, qui allait être débauché pour être dans la cellule de recrutement, pour être le chef du scout. Que Laurent Blanc finalement va être reconduit. Au début, moi, je pensais que c'était une tournure de communication de la part de Textor, parce qu'il fallait impliquer Laurent Blanc sur la fin de saison, à 3-4 matchs de la fin de saison, surtout que Lyon pouvait encore jouer l'Europe. Mais bon, finalement, ça s'est confirmé. Et moi, je voulais en parler, en discuter avec les copains Nico, parce que moi, je ne comprends pas. Alors, bien évidemment, que Laurent Blanc, pour beaucoup, a fait une deuxième partie de saison plutôt correcte en termes de résultats et en termes de points, même si je reviendrai là-dessus. Moi, je trouve que c'est assez surfait par rapport à ce qu'on en attendait, parce que Laurent Blanc est arrivé en novembre. Je parle sous ton contrôle.
Peux te donner 1,71 points de moyenne.
Voilà, moi j'en attendais quand même.
C'est pas un parcours d'Européen.
Ouais, j'en attendais quand même un peu mieux. Mais bon, pourquoi pas, les points ont été là. Il y a eu un léger mieux. Tout n'est pas à jeter, bien évidemment. Maintenant, moi je parle juste dans la constitution club. Je ne comprends pas comment, avec un nouveau cycle, avec un nouvel investisseur, avec voilà, tout ce qu'on a dit sur Textor, le départ de Jean-Michel Aulas, comment en fait, sur la direction sportive, que ce soit le directeur sportif et l'entraîneur, on est si peu de changements. Moi, je m'attendais à quelque chose de nouveau. Et moi, je reste sceptique, même si j'aime beaucoup Laurent Blanc et la carrière qu'il a eue, sur les capacités à enclencher quelque chose de frais, de nouveau, de moderne à l'Olympique Lyonnais. Moi, je trouve que ce qu'il a proposé dans le jeu sur les 6 premiers mois, malgré ses résultats, ça n'a pas été grandiose. Que son milieu à 3 restrictif, Thiago Mendes, Le Penant, Cacré, manquait d'idées, manquait de créativité, que le duo Barcola-Lacazette, qui pour moi a sauvé quand même pas mal de matchs de l'Olympique Lyonnais, où c'était infect. Hein. Je parle bien évidemment du Montpellier-Lyon, où il y a 4-1 à la 60e minute. On a une fin de match un peu folle, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'à un moment donné, il y a 4-1 et que dans le jeu, c'est très très compliqué. Barcola, au passage, faut pas oublier que sur les 6 premiers mois, il ne veut pas en entendre parler, et que Toko Ekambi est mi-titulaire, et que par la force des choses, Barcola, à un moment donné, s'impose par rapport à ses minutes.
Il voulait le garder, Toko.
Moi, je trouve que je vais pas dire le je m'en foutisse, parce que c'est un mot très très dur, mais je trouve que dans la communication de Laurent Blanc, ce qu'il dégage, je suis pas sûr que pour un club de très très haut niveau comme Lyon, voilà, par exemple après le match contre Nantes, bon, tu perds une demi-finale, t'as l'impression qu'il a perdu
un match.
Mais tu
sais qu'il était comme ça à Bordeaux et à Paris.
Ah, je le ressentais pas de la même manière.
Il y avait une désinvolture peut-être.
Je le ressentais pas du personnage. À Bordeaux, je me rappelle la saison notamment où il est champion, et même la saison d'après où il y a le drame, tu sais, avec l'équipe de France, ce qui laisse Marseille passer devant. Il avait cette communication où t'as l'impression qu'il en avait rien à cirer.
Bah moi, je le ressentais pas de la même manière. En tout cas, les résultats et le jeu étaient bien meilleurs que ce qu'on voit, à Lyon. Et juste pour terminer, je parlerai sous le contrôle de Julien, ce serait intéressant d'avoir son avis. Mais moi, pour moi, quand il y a un nouvel organigramme, même si pour l'instant ça s'est pas concrétisé, parce que moi mon avis je l'avais déjà depuis une semaine et je pensais qu'il allait avoir un directeur sportif. Pour moi un directeur sportif doit choisir son coach. Et quand on a un Laurent Blanc qui continuera de rester, et au premier problème, à la première incartade, le problème c'est que on sera toujours dans une histoire
où, de savoir s'il va gicler
voilà,
ou pas.
on n'a pas choisi le coach, on n'a pas fait les bons choix, et ça pour moi ça me dérange. D'accord. Sur le futur
sujet là on est obligé de parler d'oseille, parce qu'en fait à mon avis c'est grandement une question d'oseille. C'est particulier parce que on se retrouve sur un club qui est racheté plus de 800 millions d'euros, donc c'est une somme énorme, et donc on se dit le mec a de l'argent, mais on sait très bien aussi le montage financier qui a été fait pour acheter le club, et surtout tu te retrouves dans une situation où tu achètes un club qui est très bien valorisé, mais au final où tu te retrouves dans une situation où tu auras très peu d'oseille pour enclencher les premiers changements. Olas avait prévu d'ailleurs 70 millions d'euros de vente, c'est ce qu'il avait dit à la DNCG, donc c'est pour te placer un petit peu le niveau de crise financière qu'il y a dans ce club. Il y a aussi la question de Textor, est-ce qu'il a la possibilité, lui, de rajouter encore plus après son rachat? C'est une question importante. La question de Textor et d'Olas, il a quand même déboursé 10 millions d'euros pour le sauter du club, donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans cette histoire-là. Et moi, je te dis, s'il ne nomme pas de directeur sportif, c'est pour s'éviter justement qu'il lui impose un changement de coach et des indemnités supplémentaires. C'est terrible à dire aujourd'hui, mais je crois que j'avais déjà des doutes au moment du rachat, évidemment. Mais là, je pense qu'on est dans une situation où on va faire une forme de statu quo.
C'est problématique, ce fait.
C'est problématique. C'est
parce qu'on nous a vendu.
Quand tu parles de statu quo, je pense qu'il y a. Ça me fait penser à une chose sur Laurent Blanc, et ça fait un peu le lien sur ce qu'on disait sur Longoria, là, qu'on partageait toi et moi, et sur le sujet qu'on va aborder sur la nouvelle génération de coachs. Je trouve que le problème fondamental de Laurent Blanc, c'est que son jeu et son style de jeu, il est daté. Il est ringard. Ce qu'il faisait au Girondins de Bordeaux, ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain, qui certes avait une identité ultra marquée.
Mais même là, je le vois pas, moi.
Un jeu de possession, ça ne fonctionne plus. Et quand je parle de Longoria, c'est parce que Longoria explique que maintenant, le football, quand t'as pas les moyens des très grands clubs comme PSG ou Manchester City, il faut jouer le jeu de transition hyper rapide, etc. Je ne pense pas que Laurent Blanc soit capable de le faire.
Juste un dernier truc, Nico, parce que c'est important au niveau financier. C'est que, en fait, peut-être que les supporters lyonnais sont laissés berner un moment quand il a décidé de virer Jean-Michel Aulas. La question, c'était de savoir, il vire Jean-Michel Aulas pour pouvoir commencer à implanter sa propre direction sportive. Et donc, c'était ça dans l'esprit des gens. La réalité, c'est que le fait de virer Aulas, c'était surtout sur la question de la section féminine où ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient vendre Textor pour récupérer du cash. D'ailleurs, ils ont récupéré environ 50 millions d'euros en revendant la section féminine. Mais je pense que le problème entre les deux vient de là. Mmh. Et non pas d'une volonté d'impulser quelque chose sportivement tout de suite.
Laurent Blanc. J'ai entendu ringard, style de jeu dépassé. Has-been aussi.
Non, je trouve que c'est bien évidemment très très sévère. Je pense qu'il faut dans l'analyse rappeler certains faits. Il a repris une équipe en cours de route déjà. Ça c'est la première chose. Une équipe qui était, je crois, en milieu de tableau, assez loin déjà des possibilités de finir européen. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont joué dans cette équipe sur la deuxième partie de saison. Je pense à Koumbédi derrière, je pense à Diomandé qui s'est installé en charnière centrale, je pense à bien évidemment à Barcola, je pense à Cherki aussi qui a joué énormément. Quatre joueurs entre 17, 18 et 20, 21 ans.
Lukeba aussi, il a
20 ans. Et Lukeba aussi, 20 ans, c'est sa deuxième année, mais ça faisait la moitié des joueurs de champ qui avaient entre 18 et 20 ou 21 ans. Alors, ils n'ont peut-être pas fait que des très bons matchs, peut-être, mais je trouve qu'en termes de résultats, parfois sur des morceaux de matchs, j'ai trouvé ça intéressant. Je les avais notamment vus contre Rennes, ils avaient fait une très bonne deuxième mi-temps contre Rennes. C'est vrai que le match de Montpellier, c'est un match très très particulier. Il y a des matchs où, où ils ont fait des choses très intéressantes. Il y a des joueurs de talent, mais il y a aussi de la jeunesse. Il y a Le Penant aussi qui a beaucoup joué. Ça, c'est des très, tout ça, ce sont des très, très jeunes joueurs. Il y a plus beaucoup de joueurs expérimentés. Sidney Lacazette, Lovren, Tolisso, qui a aussi eu quelques blessures. Et ça conditionne quand même, ça conditionne beaucoup de choses dans les résultats et surtout dans la continuité, dans la performance.
Alors, on fait une pause, on prolonge sur Lyon dans un instant, on sera avec Aurélien, supporter de l'OL au 32-16. Restez avec nous, c'est Génération After sur RMC avec Walid, Sofiane et Jonathan et Julien Stéphan, notre invité. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, avec Jonathan Marcardi, Sofiane Zouaoui, RMC 21h31 et notre invité Julien Stéphan qui nous accompagne jusqu'à 22h. On parle de Lyon bien sûr et je vais accueillir Aurélien au 32-16. Salut Aurélien.
Salut les gars, vous allez bien? Salut.
Bien et toi?
Salut,
écoutez,
salut Aurélien.
De Walid qui a du mal à comprendre la pertinence de conserver Laurent Blanc sur le banc à Lyon. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu n'es pas d'accord?
Alors je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des principes auxquels je suis d'accord, c'est sur la gestion sur le temps à venir, notamment par Textor, parce qu'en soi en France on le connaît pas. Mais moi je suis pas d'accord sur l'aspect sportif, dans le sens où depuis le début par exemple on parlait de Marseille où les entraîneurs s'enchaînent tous les ans. Et là pour une fois on a une opportunité de laisser du temps à l'entraîneur, parce que c'est ça qu'on a comme problème en France, c'est qu'on laisse pas le temps. Pour moi il faut lui laisser du temps. C'est une opportunité. Laurent Blanc, il connaît le championnat de Ligue 1, pas Textor, donc ça peut être aussi une transition entre les deux. Il sait gérer des jeunes, il sait quand même gérer des joueurs comme Lacazette ou Corentin Tolisso ou autre. Pour moi, il faut le laisser.
Non mais...
si on lui laisse pas le temps de gérer, de faire sa manière, parce que quand il est arrivé en novembre, il a fait ce qu'il avait. Donc là, depuis on est début juin, le mercato commence. On lui laisse 2 mois pour travailler, pour faire venir les joueurs qu'il veut, en fonction des moyens qu'il aura, bien sûr. Et on va laisser travailler, on va le voir après sur le sportif, on aura forcément une différence.
Non mais Aurélien, juste moi pour remettre dans le contexte mon avis, déjà, il n'y a pas que Laurent Blanc, moi j'ai pas de problème avec Laurent Blanc à la base. C'est vraiment la structure Lyon, est-ce que veut donner Lyon dans ce nouveau virage où on nous a quand même expliqué, ou en tout cas vendu, un vrai renouveau. Et moi, je trouve que, au-delà de Laurent Blanc, même ce qui se passe autour de la direction sportive, moi, me dérange. Pour moi, il me fallait vraiment une vraie cassure. Et Laurent Blanc, il a fait son boulot, à la limite, même si moi, je pense qu'il a pas cassé la baraque, sur les 6 derniers mois. Il a fait un travail correct. Il y a des plus, il y a des moins. Oui, l'avènement de Cherki et comment dirais-je, son mode de management, j'aime bien. J'apprécie. Barcola, ça, encore une fois, je fais un pas de côté. Nico, je le répète, Barcola, à la base, il est pas eu ultra fan de Barcola. Barcola s'impose de lui-même.
Un peu
et je pense que même ma maman, avec les matchs de Barcola à Lyon, elle aurait donné des minutes à Barcola. La même chose.
C'est plus complexe que ça quand même.
Je suis désolé, mais moi.
C'est Stéphane qui sourit quand il.
Non,
c'est plus complexe, sûrement.
Non, mais Barcola, je sais pas, je parle sous contrôle de Sofiane, il est pas à la base adoré par Laurent Blanc. Laurent Blanc, il a quand même un discours sur les jeunes quand il arrive.
Il le dit lui-même d'ailleurs.
Quand il arrive, il dit moi, les jeunes, moi, je veux une équipe compétitive, je veux des cadres, je veux prendre Lovren. Voilà, les jeunes, c'est quand tu vois la gestion de Momo et Larouche, qui est l'un des meilleurs joueurs du centre de formation, où il lui donne pas beaucoup de minutes, où il fait très très peu de groupes.
Excusez-moi. Jonathan, petit événement sur la finale de Ligue Europa Conférence. Un joueur, c'est Biragui, un Florentin qui est blessé. Aurélien, raconte-nous ce qui s'est passé là.
Ouais, la 33e, 0-0. Alors, il y a beaucoup de tensions sportives sur le terrain, hein. Pas beaucoup d'occasions. Et il y a de la tension, malheureusement, dans les tribunes avec des idiots, supporters de West Ham, qui lancent des gobelets en plastique sur les joueurs depuis plusieurs dizaines de minutes. Il y a même Nico Gonzalez, l'Argentin, qui, pour rire, entre guillemets, en a pris un et a fait semblant de boire dedans en applaudissant de manière ironique. Et là, le Cristiano Biragui, le capitaine de Florence, avant de tirer un corner, s'en est pris un sur le derrière du crâne. Alors, c'est un verre vide, c'est pas dramatique non plus, mais il saigne et ça empêche le match de se jouer. Donc en première ligue, il y a moins de problèmes parce que les places coûtent très cher, mais les supporters anglais font les mêmes bêtises malheureusement que de mauvais supporters français.
Les supporters de West Ham, c'est pas des rigolos.
Ils sont chauds. Ouais, il y a eu déjà eu du grabuge dans la ville de Prague. Hein, c'est là où il y a eu la finale aujourd'hui.
Et c'est pas moins grave que ce qui s'est passé à Bordeaux vendredi soir. D'ailleurs, on a on a arrêté le match, on n'est pas allé au bout de Bordeaux-Rodez. Ce soir, ce qui se passe, c'est dramatique sur la pelouse.
Il y a un bâton rouge là qu'il a ramassé par terre, l'arbitre.
Même des verres en plastique, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont tombés sur le poteau de corner, dont un donc sur le crâne qui saigne de Cristiano Biraghi. Il est en train de recevoir les premiers soins, mettre un pansement à l'arrière de sa tête. La 35e minute, 0-0 à l'Eden Arena de Prague. Il n'y a pas beaucoup d'occasions, c'est vraiment tendu parce que c'est aussi un match qui peut qualifier l'une ou l'autre des équipes en Coupe d'Europe, en Ligue Europa la saison prochaine. Les deux ont raté le ticket européen via le championnat. Okay. Donc voilà, 0-0, 35e minute de jeu. Ça devrait reprendre avec un gros bandeau violet sur la tête de Cristiano Biraghi, le capitaine de la Fiorentina.
La balle de 7 à Roland Garros. Pardon. Pour Casper Ruud, Julien Taxis.
Oui, on est en plein échange avec un Casper Ruud en contrôle sur la ligne de fond de court et une nouvelle faute directe d'un Holger Rune qui explose 6-1, 6-2 en 1 heure et 3 minutes de jeu. Le TGV Casper Ruud bien lancé vers la demi-finale.
Il y a 3 mois, il avait quasiment disparu, Casper Ruud, il s'est totalement relancé. Un mot sur cette image, Julien Stéphane, évidemment, vous qui avez entraîné post-Covid. Est-ce que vous des sentiments qu'il y a une tension nouvelle, plus intense en tribune, que ce soit chez nous d'ailleurs ou à l'étranger? Non, vous n'avez pas constaté?
Non, je n'ai pas constaté forcément ça. Non, après, c'est les événements là, des derniers jours qui peut-être nous amènent à mettre ça en lumière. Et oui, je partage, c'est aussi grave que ce qui s'est passé à
oui.
Bordeaux.
Mais ils ont de la chance que Biraghi continue, moi je te le dis. Oui. Parce que là, il a accepté de prendre un gobelet, de se faire ouvrir la tête. Mais
il
sincèrement,
va tirer le corner,
s'il tombe par terre, l'arbitre arrête le match. Hein, et on ne sait pas ce que ça peut donner. Ils sont bien gentils. Hein.
Allez, on conclut sur Lyon avec quoi?
Juste pour conclure, et sur la fameuse stabilité que doit avoir Lyon et que doit avoir les clubs, moi bien évidemment que je préconise la stabilité. Mais le signal que tu envoies après cette saison ratée, même si tout n'est pas de la faute de Laurent Blanc, moi je suis d'accord avec Julien, bien évidemment il peut avoir des circonstances atténuantes, mais Monaco saison ratée, Clément saute, Nice saison ratée, Didier Digard saute, tu peux prendre d'autres clubs où
Camboire n'est plus là, voilà. Aussi à Nantes, ouais.
Et Lyon il termine combien, 7e 8e?
7e de Ligue 1.
Je suis désolé, à un moment donné il y a quand même il y a des décisions à prendre. Si les décisions de John Textor, et c'est pour ça que là moi j'écarte Laurent Blanc, c'est de ne rien changer ou presque.
Sofiane a souligné, je pense,
oui,
le nerf de la guerre,
économique.
Même l'aspect financier, on s'est fait, je suis désolé, moi c'est pas ce qu'on m'avait vendu entre guillemets.
Bah ouais,
j'ai essayé d'y croire, moi.
Ça a pué dès le début. Rappelle-toi, sur la manière dont la vente s'est faite, ça a tardé à se concrétiser.
On a la confirmation, en tout cas.
Maintenant, la vraie question à se poser, c'est quel est vraiment le projet lyonnais? Quels vont être les objectifs pour la saison qui arrive? Parce que là, encore une fois, c'est une nouvelle catastrophe industrielle pour ce club qui est coté en bourse, etc., de finir encore en dehors des places européennes. Là, je me demande quelle va être l'ambition sur le marché des transferts.
On n'a
pas encore eu d'avis sur le montant de l'enveloppe. Il y a beaucoup de questions.
On verra ça.
Il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes et beaucoup d'inquiétudes.
Il y aura un passage également de la DNCG à la fin du mois de juin pour John Textor et l'Olympique Lyonnais. Merci Aurélien d'avoir fait le 32-16.
Salut Aurélien.
Salut Aurélien. D'un entraîneur qu'on peut qualifier d'ancienne génération, Laurent Blanc, et puis sur la fin de sa carrière d'entraîneur que sur le début. Vous incarnez, Walid l'a très bien dit tout à l'heure, vous êtes un étendard de la nouvelle génération d'entraîneurs en France.
Ah non, il y en a un nouveau maintenant.
C'est Régis
Lebris, oui.
Mais que connaît très bien Julien d'ailleurs. Que Julien a connu à Rennes.
Le nombre de mecs qui sont sortis à Rennes quand même.
Meilleur centre de formation.
La Bretagne, surtout.
Pas de hasard. T'as meilleur centre de formation, c'était les meilleurs formateurs également. Franck Haise aussi, que vous avez croisé, à Rennes. Hein. Il part en 2012, vous arrivez en 2012.
Ouais, c'est ça. Franck entraînait les 17 ans à Rennes, quand moi j'entraînais les 17 ans à Lorient, donc on s'est connus à ce moment-là, on s'affrontait. Et on s'est découvert.
Il y avait déjà des principes à l'époque chez Franck Haise.
Oui. Alors une structure complètement différente de jeu. Ensuite, c'est pas le même travail à la formation et chez les pros. Il y a une méthodologie qui est complètement différente, mais je suis vraiment très content pour lui de ce qu'il fait et c'est amplement mérité.
C'est comme vous, hein, il arrive, ça doit être qu'en intérêt, mais puis au final ça fonctionne.
Il fait deux matchs au départ et puis il y a l'arrêt des compétitions, il monte en Ligue 1 et puis voilà, l'histoire se met comme ça. C'est une forme de destin, mais c'est un destin mérité.
Comment vous pourriez nous décrire ce qualificatif entraîneur de nouvelle génération? Nous on dit ici plus porté vers l'avant, une envie de se créer un maximum d'occasions aussi,
plus intellectuel,
plus réfléchi aussi, plus structuré dans l'approche du jeu.
Connecté.
Est-ce que c'est le cas? C'est comme ça qu'on peut le qualifier ou pas?
Je pense qu'il faut faire attention avec les termes. Nouvelle génération, qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle génération?
Déjà plus jeune.
C'est plus jeune, d'accord, plus jeune. Mais plus jeune, c'est moins expérimenté que les anciens.
Ou moins usé.
Aussi, mais c'est moins c'est un métier où l'expérience est très très importante. Je crois aussi que on profite aujourd'hui, nous, les plus jeunes entraîneurs, de staff beaucoup plus développés, de compétences beaucoup plus importantes autour de nous également. On on a maintenant des responsables de la performance, on a des nutritionnistes, on a des data scientists, on a des staffs qui sont plus larges également autour de nous, deux adjoints, enfin voilà, il y a
analyse vidéo.
Il y a analyse vidéo également bien évidemment et parfois pas qu'un seul. Donc il y a les data qui sont aujourd'hui bien présentes dans tous les clubs, ce qui n'existait pas avant. Donc je pense que c'est une méthodologie de travail qui est différente, une approche qui est différente et une attente du coup de la part d'une direction aussi qui est différente. Voilà, alors la nouvelle génération, elle baigne là-dedans, la nouvelle génération d'entraîneurs, elle a peut-être aussi été un petit peu éduquée par rapport à ça, là où les entraîneurs, il y a 20 ans ou 25 ans, faisaient beaucoup de choses tout seuls et ont été habitués à travailler beaucoup tout seuls.
Je viens d'accord, mais on a le sentiment chez cette jeune génération, Francaise, Régis Lebris ou vous-même, qu'il y a des velléités beaucoup plus offensives que celles qu'on a vu observer pendant des années en Ligue 1. Pour vous, c'est un peu court, ça, comme qualification?
Je trouve surtout que c'est réducteur par rapport à des entraîneurs qui ont 15, 20 ou 25 ans d'expérience. Je crois que tous les entraîneurs ont envie de marquer des buts, ont envie de gagner des matchs, tous. Ensuite, on est aussi tributaire de l'effectif, on est tributaire de l'endroit où on est tributaire d'un contexte. Mais je peux pas croire qu'un entraîneur commence un match ou une saison en disant à ses joueurs.
Longtemps, le discours, ne pas prendre plus de buts que l'autre, assurer Gattier, un point.
C'est qui disait, on va se satisfaire du point qui nous est accordé au coup d'envoi.
Tout à fait.
Après, il y a aussi beaucoup de communication.
Entendu, avec René Girard, notamment.
Il y a eu beaucoup de.
Fred Antonetti qui a fait du bon boulot à Strasbourg là, mais également.
Au-delà de ce qu'ils font sur le terrain, moi, je trouve que la nouvelle génération s'ouvre beaucoup plus. Et déjà, vous voir ce soir discuter avec nous.
C'est vrai.
Non, mais on a une communication, même si on sait que c'est très très important aussi pour l'image dégagée, mais quand on voit Will Steele, quand on entend Will Steele parler en conférence de presse, Régis Lebris qui, moi, pour être honnête, je suis pas le plus grand fan de Régis Lebris cette saison. Je trouve qu'il a fait du très bon boulot pendant deux mois, mais c'est pas, je préfère d'autres styles de jeu, mais Régis Lebris dans sa communication c'est parfait. Il nous éveille tactiquement, il va vers le football moderne.
On découvre un peu, là.
Moi je trouve que dans cette nouvelle génération, dans la communication, dans le fait de parler de foot en conférence de presse, d'essayer d'enrichir un petit peu le débat foot en France, je trouve qu'il y a quand même une véritable avancée, moi.
Je comprends ça, mais est-ce qu'on voyait les confs de presse il y a 20 ou 25 ans? Est-ce qu'on y avait accès comme on y a
sans aller jusque-là, il y a 10 ans, on les voyait déjà, les confs de presse.
Le temps du discours a changé.
C'est possible. Auparavant, on parlait
surtout de ce qu'on a, l'attribut masculin qu'on a entre les jambes en disant c'est ça qui compte, c'est le caractère, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'entraîneurs qui sont prompts à parler de jeu, à expliquer quelles sont leurs idées et à développer surtout quelles sont leurs méthodes de travail.
Non, il est sûr que la communication pour les entraîneurs d'aujourd'hui, c'est fondamental. Expliquer ce qu'on fait, dire ce qu'on a envie de faire. Je pense que oui, je pense que c'est une donnée importante du métier.
Allez, pause. Et on finit avec vous, Julien Stéphane, Génération After. On a pas mal de questions pêle-mêle qu'on va lui poser. Notamment, on peut parler de Camavinga, par exemple. On peut parler de Christophe Galtier au PSG, que vous connaissez et que vous appréciez aussi également.
La progression des joueurs, j'aimerais.
La progression des joueurs aussi. Un maximum de questions qu'on va vous poser avant d'accueillir Gilbert, Daniel et Thibaut pour l'After, comme tous les soirs, jusqu'à minuit. Les directs. La finale de Ligue Europa Conférence. Aurélien Tiercin, Fiorentina, West Ham.
43 minutes de jeu, 0-0. C'est un match hyper fermé. Mais là, il y a un coup franc intéressant pour West Ham. 25, 30 mètres décalé sur le côté gauche, le centre d'Emerson au deuxième poteau, dégagé de la tête par la défense de la Fiorentina. 0-0, la 43e.
Et le 7-0 pour Ruud face à Rune à Roland Garros en quart de finale. A tout de suite pour Génération After sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Walid Acharchour, Jonathan Macardy et Sofiane Zouaoui, on est ensemble jusqu'à 22h. Gilbert, Daniel et Thibaut arrivent pour l'after jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Les directs, on est en finale de Ligue Europa Conférence. Aurélien Tiercin.
Eh ben, c'est pas beaucoup plus excitant que la finale de Ligue Europa. C'est vraiment pas terrible. C'est un combat physique 0-0 après 48 minutes. On est dans la 4e minute de temps additionnel. Il y a une demi-volée de Declan Rice à la 20e, à peu près, une tête de Milenkovic côté Fiorentina. À part ça, il n'y a pas grand chose, un corner à venir là de la droite vers la gauche en faveur de la Viola pour la Fiorentina. 0-0, c'est tiré en deux temps par Biragi et le centre d'Amrabat et voilà, dégagé par la défense de West Ham. C'est pas terrible, 0-0.
C'est officiel pour Lionel Messi, hein, qu'il a annoncé lui-même à nos confrères espagnols. Il rejoint l'Inter Miami et pas l'Arabie Saoudite. Léo Messi, pour des raisons personnelles, hein, sa femme, lui-même, sa famille au sens large, ne se voyait pas vivre en Arabie Saoudite.
C'était mieux les États-Unis. C'est mieux les États-Unis par rapport à l'Arabie Saoudite.
Très bonne question. Pense, ne partons pas sur un débat géopolitique.
Géopolitiquement, on pourrait dire beaucoup de choses aussi.
Pour moi, c'est mieux.
Voilà. Mais
non, le Barça, et qui avait fait des plans de financement et tout.
Tout à fait.
C'est bizarre un peu.
C'est raté. Ah, Julien Stéphane est avec nous, on a plusieurs questions à vous poser. Tiens, je vais commencer, puis chacun posera sa question un peu croustillante, ou vous y allez. Est-ce qu'avons-nous été trop durs, nous journalistes, observateurs, supporters, avec Christophe Galtier, saison PSG, bien sûr. Je rappelle que vous avez un lien avec Christophe Galtier aussi, vous avez parlé avec lui à une époque.
Oui, oui, non, enfin un lien comme on peut
vous
se
avez échangé des voilà. conseils, ouais, notamment. Ouais.
D'abord, il faut rappeler qu'il est champion de France. D'abord, il faut
rappeler. Moindre mal, non ?
C'est pas toujours été le cas.
Ouais,
tout le monde.
C'est vrai.
Faut rappeler ça. Il faut pas occulter la qualité de la première partie de saison. Très honnêtement, les quatre premiers mois, c'était très bon. Après, il y a eu un vrai changement avec la coupure. Est-ce qu'on a été trop dur ? Je pense qu'on est trop dur avec les entraîneurs du PSG depuis 5-6 ans maintenant.
Trop dur ?
Oui, je pense. Ouais. Ouais.
Pour quelle raison ?
On a été trop dur. On a été dur avec Ancelotti, on a été dur avec Tourelle. On a été dur avec un certain nombre d'entraîneurs qui ont réussi ailleurs et plus que réussi ailleurs à très 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 haut niveau. Voilà, je pense que c'est difficile aujourd'hui d'entraîner le PSG.
Est-ce que le PSG est un club qui est entraînable ?
Alors, oui, tous les clubs sont entraînables. Mais c'est très très difficile et c'est peut-être l'un des clubs les plus difficiles au monde.
Walid.
Ouais. Je vais pas rebondir sur
question, vas-y.
Sur Julien, je suis pas totalement d'accord, mais moi j'aimerais revenir sur la question de la progression de vos joueurs. Tout à l'heure, Joe parlait des trophées, des émotions qu'on pouvait transmettre à ses supporters en termes d'héritage dans un passage club. Moi, j'aimerais vous parler de cette capacité à pouvoir faire progresser ses joueurs. Est-ce que en termes d'héritage pour vous en tant qu'entraîneur, c'est très très important? Moi en tout cas, pour un entraîneur, je m'y attache beaucoup quand je pense à comment Rami Ben Sebaïni sous vos ordres s'est révélé, je pense à Bourigeau notamment, Ismail Assar même si derrière c'était un peu moins bien.
Kamavinga.
Est-ce que c'est les trophées, etc., bien évidemment, c'est important. Mais est-ce que aussi le fait de faire progresser ses joueurs, c'est quelque chose qui est très important ?
C'est la base du métier. C'est la base de notre métier. Et ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'on peut faire progresser un joueur à 18 ans, mais on peut aussi faire progresser un joueur à 34 ou 35 ans.
Benjamin André, notamment, qui était un peu plus vieux.
Le dernier exemple que j'ai, moi, en tête, à qui j'avais noué une relation très particulière aussi à Strasbourg, c'est Dimitri Liénard. Qui a même changé de poste l'année dernière, qui était un milieu de terrain, qui jouait dans le couloir, qui a fait une saison exceptionnelle, qui ne croyait pas être capable de faire ce qu'il a fait. Et c'est génial d'avoir des joueurs qui sont capables de se révéler dans des postes différents de leur poste de formation, ou même d'aller les amener à explorer des pistes qu'ils ne pensaient pas pouvoir explorer. Donc ça c'est fantastique. Bien sûr que l'évolution d'un joueur, ça fait partie intégrante de notre métier. Sa progression, ça doit être observé en permanence chez un entraîneur et plus globalement dans un travail de staff, parce qu'il ne faut pas réduire la progression du joueur à la qualité du travail qu'il fait par l'entraîneur, mais par la qualité du travail qu'il fait par le staff dans son ensemble.
C'est quoi la plus grande progression pour vous d'un joueur sous vos ordres? Celle qui a été la plus éclatante, ou même au début vous y croyez pas et vous.
Sebaïni, c'est pas mal quand même, non?
Oui, Ben Sebaïni qui va signer à Dortmund aujourd'hui.
Ouais, Rami, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, ça a duré 8 mois, puis après il est parti en Allemagne. La meilleure progression. Il y en a un qui a beaucoup progressé. Moi, j'ai trouvé la progression de Bellegarde très intéressante.
Un bon joueur, Rabel Garde.
C'est un vrai joueur qui a beaucoup de potentiel et qui n'a pas fini encore de l'explorer.
Question de Sofiane.
Ouais, parce que Walid a un petit peu parlé déjà de Kamavinga, il a lancé le sujet, et puis vous avez parlé, coach, du changement de poste. Donc, je vais aller sur Kamavinga, du coup, à ce niveau-là. On l'a vu en latéral gauche cette saison avec le Real Madrid, on l'a vu avec l'équipe de France aussi latéral gauche. Moi, j'avoue, quand Deschamps le fait, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Finalement, ça s'est confirmé avec Ancelotti, qu'il était aussi très bon à ce poste. Vous l'avez eu en jeune, est-ce qu'il faisait déjà ça? Et est-ce que ça vous surprend de le voir performer? Alors au milieu non peut-être, mais en latéral gauche aussi, même s'il aime moins ça.
Alors d'abord, nous on l'avait mis sur deux matchs de réserve à Rennes, on l'avait mis latéral gauche. Mais moi je suis très partisan dans la formation de permettre aux joueurs d'explorer différents postes.
La polyvalence.
À tous âges, entre 14, 15 et 19, 18, 19, 20, jusqu'à la fin de la formation, je suis très, très.
Après, ça doit s'arrêter.
Partisan. Non. Après, ça peut se poursuivre. Mais dans le processus de formation, je suis partisan de permettre aux joueurs d'explorer différentes choses et de le mettre dans des positions même difficiles où il est obligé de trouver certaines réponses.
Et pour comprendre aussi le rôle de ses coéquipiers sur un terrain, j'imagine.
Également, aussi. Ensuite, pour être très honnête, est-ce que j'aurais imaginé un niveau de performance comme ça d'Eduardo cette année à ce poste-là ? Non. Dans la durée, non. Pour être très très honnête. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Un gamin de 20 ans, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans. À 20 ans, être capable de s'adapter comme ça, de faire des performances de très très haut niveau dans des compétitions de très haut niveau, c'est exceptionnel. Je pense malgré tout que son poste de prédilection et le poste dans lequel il s'exprimera le mieux, ce sera le poste de milieu de terrain axial.
Mais milieu de terrain axial, dans quel registre ? 6, 8,
6.
Devant la défense, dans un milieu à 3.
Dans un double pivot.
Première relance ?
Les deux, il est tellement capable de traverser. Lui, ce qu'il préfère, ce serait dans un milieu à 3, point de basse. Pour se retrouver.
C'est exactement le genre de.
Ouais. Ok.
Il manque pas un petit peu d'agressivité défensive.
Il est exceptionnel dans l'agressivité.
Parce que moi, je me pose la question sur Kamavinga. 6-8, c'est intéressant d'avoir la vie de
un homme qui vous a rendu hommage quand vous êtes parti de Rennes. Vous avez dit, coach, grâce à vous, j'ai découvert le monde adulte de la N3 à la Ligue 1 en passant par Ligue des Champions. Je vous dois beaucoup. C'est ce qu'a dit Eduardo Kamavinga. C'est un plaisir de vous avoir ce soir avec nous dans Génération Affaires.
Merci beaucoup.
Merci.
Si dans 6 mois vous n'avez pas de travail, revenez. Mais si vous avez du travail, revenez également.
Surtout,
car on aime votre ouverture comme celle de Francaise, notamment Régis Lebris. Pouvoir raconter le football, l'échanger au plus près avec.
Je pense que les gens vont se régaler.
Merci beaucoup, Alid. Merci, Jonathan. Émission à retrouver en podcast, bien sûr, sur nos plateformes de téléchargement et pas uniquement sur rmc.fr. L'after arrive, Thibaut Leplat, Daniel Riolo et Gilbert Bribois à Manet. Bonne soirée à tous sur RMC.
Génération After.